RMC, 13h-15h, Stephen Brunch.
Arnaud Valadon, Stephen Brun.
Bonjour à tous, il est 13h04, vous êtes sur RMC, c'est votre émission du dimanche, Stephen Brunch, de 13h à 15h, et c'est la dernière de la saison, donc elle s'annonce exceptionnelle. Qui dit émission exceptionnelle dit un garçon qui est vice-champion d'Europe par équipe de Floret la semaine dernière. Maxime Potit avec nous, salut Max.
Salut Steve.
Ça va?
Bah au top.
Félicitations.
Ouais. Merci, merci. C'est toujours une deuxième place, donc il manque quelque chose, mais on fera mieux au championnat du monde
t'es
dans
même,
un mois.
T'es quand même meilleur par équipe qu'en individuel, Maxime. T'as besoin des copains, t'as dû faire du basket.
Bon. Je suis un homme altruiste, j'aime le partage, voilà. Je pense aux autres.
Un autre qui aime le sport co, c'est Arnaud. Salut Arnaud, voilà.
Salut Stephen, salut à tous. Ça va? Un peu d'émotion, une dernière, c'est pas la dernière, mais dernière de la saison. Bah non, mais ça fait. Wow.
Ah ouais,
c'est une belle année.
T'es un mec d'émotions, toi.
Ouais, j'aime bien, oui.
Et alors, avec la Coupe du Monde, t'as des belles émotions?
Oui, on attend un peu. On a envie que ça commence un peu, tu vois, les matchs à élimination. Même si tu as une très belle tenue, le maillot du Congo. Là, on a de l'émotion avec le Congo.
On est RDC. Là, Congo, mené 1-0 par l'Ouzbékistan en victoire obligatoire pour se qualifier. Heureusement, Johan Wissa est passé par la Kinshasa. On est là.
Bon, on t'a réservé un bon programme.
Vas-y,
pour
dis-moi
cette dernière.
Parce que je suis pas au courant.
T'es pas au courant?
Non,
alors, le rugby, je sais pas si t'as suivi, le Stade Toulousain a gagné.
Ouais,
surprise.
Grosse surprise.
Victoire face à Montpellier hier, 28-20. Toulouse est-il trop fort pour le championnat de France? C'est le quatrième titre de suite pour les Rouges et Noirs. Léon Marchand est de retour en France. 2 ans après sa dernière compétition, il a remporté facilement son épreuve fétiche hier au championnat de France à Saint-Etienne, le 400 mètres 4 nages. Est-ce qu'il vous surprend toujours? Qu'attendez-vous de lui? On saura avec Julien Richard qui nous dira tout. Et du basket pour cette première heure avec un invité, Evan Fournier, vainqueur de l'Euroleague, MVP des finales, champion de Grèce, l'arrière international s'épanouit au Pirée et on reviendra aussi sur une annonce officielle. Tony Parker va entraîner l'ASVEL, c'est officiel, avec Vincent Collet comme assistant.
Avec quelques moyens corrects. Hein.
Oui, on annonce.
On n'est pas sur une petite équipe là, hein, Arnaud.
Ah non, et bah, tu nous diras ton avis sur ce boom, big bang presque dans le basket français pour l'ASVEL qui change clairement de dimension. Le 32-16 est ouvert pour venir réagir, interpeller Stephen et Maxime. Et le WhatsApp 06 12 424 424. Le Stade Toulousain donc remporté son 25e titre de champion de France, le 4e de suite et même le 6e sur les 7 derniers. Toulouse est-il trop simplement trop fort pour le top 14? Pierre Thévenet qui était au Stade de France hier, qui a pris un peu l'orage légèrement.
Tout va bien, on est à la
salut Pierre.
Salut à toutes et à tous.
Pour la dernière, il me fallait la Tève.
Ouais, ça me fait plaisir. Je suis honoré.
Je suis content que tu sois la pierre.
C'est pas du tout lié au fait que les deux autres soient dans l'avion et le train. C'est vraiment tu me voulais moi.
Non, c'est toi. Okay, c'est toi. Bon, c'était mon choix de draft numéro 1.
Bon, Stephen, ta réaction sur ce match qui finalement était accroché, mais peut-être que toi tu n'y as pas cru. Moi j'y ai cru à un moment, les Montpellierains aussi. Mais...
Ah, moi j'y ai cru. Alors j'ai eu très peur que le scénario de la demi-finale contre le Racing se reproduise parce qu'à la mi-temps il y avait quand même déjà pas mal d'écart. Je me suis dit, ça y est, Toulouse redémarre ce qu'ils ont fait sur la demi-finale face au Racing. Des Toulousains altruistes parce qu'ils n'ont pas non plus archi dominé cette première mi-temps, mais le peu de fois où ils ont eu le ballon dans les mains et l'efficacité avec Movaca, la dernière passe de Teddy Thomas pour Antoine Dupont, ils ont mis les points quand ils devaient les mettre. C'est important. Montpellier, le problème c'est que quand tu joues que 40 minutes contre Toulouse, c'est pas suffisant. T'as pas de marge contre cette équipe là et Montpellier a fait une deuxième mi-temps magnifique. Moi je me suis régalé de ce match là parce que j'avais peur que ça soit une rouste comme on a pu voir avec le Stade Toulousain ces dernières années. Finalement Montpellier, je les ai trouvés très bons, que finalement Toulouse n'avait pas une si grande marge que ça sur cette finale-là, ils ont été chahutés. Et est-ce qu'on vendait comme la qualité principale de Montpellier, c'est-à-dire le pack d'avant, le meilleur pack, la meilleure défense du top 14 et tout ça? Et ben moi j'ai trouvé que Toulouse, ils ont eu du répondant là-dessus, parce que quand les deux meilleurs joueurs du match, c'est Meafou et Jack Willis, ça veut dire que ils ont souffert et que les avants ont répondu présent. Montpellier loupe le coche en fait. Montpellier sur une finale comme ça contre le Stade Toulousain, quand t'as des munitions, parce qu'ils ont eu des munitions pour scorer. Quand tu le fais pas, eh ben t'es puni et à la fin tu gagnes pas et surtout t'as de la frustration parce que tu penses que t'aurais pu être champion de France sur le match que tu fais, mais quand tu perds des ballons dans les rucks, tu te fais gratter les ballons par Willis.
Un essai bête, celui de Movaca, sur une touche.
Exactement. Quand tu fais des erreurs sur les touches, quand tu fais des mauvais choix de relance, tu joues au pied alors que tu peux faire autre chose, eh ben, tu peux t'en vouloir. Et moi, je comprends que Codulo et compagnie, ils aient un peu les boules ce matin au réveil parce que tu pars en étant outsider clairement face à Toulouse et tu te rends compte que tu perds 28-20 et que la deuxième mi-temps,
Montpellier. Tu la gagnes 14-3,
ouais, tu domines le Stade Toulousain sur la deuxième mi-temps. Tu peux avoir des regrets. Alors, on me dit Toulouse est trop fort pour le top 14. Moi, j'ai pas vu une équipe trop forte pour le top 14 hier sur cette finale-là. J'ai vu un vrai match de rugby. Maintenant, à un moment donné, dans le sport, et c'est valable pour tous les sports, quand il y a une équipe qui est plus forte que les autres, il y a une équipe qui est plus forte que les autres. Moi, je veux pas taper sur le Stade Toulousain parce qu'ils sont plus forts que les autres. Ils ont peut-être plus de moyens. J'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est que quand le Stade Toulousain démarche un joueur qui est démarché par d'autres équipes, le mec, il fait quoi? Il se dit, Stade Toulousain, ah, c'est quand même 4 Brennus consécutifs, c'est quand même souvent en finale, c'est quand même peut-être la possibilité d'être champion d'Europe. Eh ben, il va à Toulouse parce qu'il a envie de garnir son palmarès. C'est que peut-être qu'à salaire équivalent, il préfère aller à Toulouse. Donc, les autres équipes, ça va les forcer à mieux travailler, à mieux développer des joueurs pour concurrencer ce Stade Toulousain-là. Mais moi, je vais pas taper sur une équipe qui est tout simplement plus forte, qui a une formation qui est magnifique, qui a des gamins qui sortent du centre de formation chaque année et qui rentrent dans l'équipe première. Donc voilà, écoute, Toulouse est trop fort pour le top 14, mais hier j'ai pas vu une équipe qui a marché comme elle a pu marcher sur le Racing en demi-finale. Et je pense que Montpellier, quand Codulo va revoir les images, il va s'en vouloir parce qu'il avait peut-être un coup à faire.
Tiens Maxime, avant de t'entendre, on écoute Hugo Mola après le match au micro de Pierre Thévenet, le manager du Stade Toulousain.
Bravo les mecs, ce qui est bien c'est 4 fois. Ce qui est bien, c'est qu'on a encore de la marge avec la seconde mi-temps de merde qu'on fait. Donc on a encore de la marge. Par contre, bravo les mecs. Vous êtes exceptionnels. Le club est exceptionnel. L'équipe est exceptionnelle. Et continuons comme ça les mecs. Allez, garde maintenant.
Ouais. Hugo Mola au micro du diffuseur, c'était sur la pelouse.
Hein, quand il réunit ses joueurs et qu'il attend
le petit de la fin.
Exactement.
Ils ont encore faim, Maxime?
Oui, mais je pense qu'il y a un tout petit peu de lassitude inconsciente parce que tu te nourris aussi des challenges. Alors il y a l'UBB qui le ramène en Coupe d'Europe. Moi hier, enfin j'ai failli éteindre ma télé à la mi-temps, quoi. Alors
t'aimes pas le sport.
Non mais
parce que moi si j'avais éteint ma télé après le premier relais au Fleuret de la finale contre l'Italien, j'aurais pas vu la suite. Hein.
T'aurais pas vu ma remontée, c'est vrai. Mais je ne t'en aurais pas voulu. Non mais le truc c'est que je trouve qu'il y a, déjà bravo à Montpellier qui s'est battu et qui a pas lâché, qui a été digne et tout, et qui est revenu et qui à un moment a peut-être fait trembler le Stade Toulousain. Moi, j'ai plus ressenti un espèce de relâchement, et je pense qu'en fait aussi dans le sport, tu te nourris de l'adversité, et j'ai l'impression qu'à la mi-temps, en fait, ils sont peut-être pas remobilisés comme les Toulousains, ils sont peut-être pas remobilisés comme ils auraient dû pour attaquer une deuxième mi-temps. Ça aurait pu peut-être leur coûter cher, mais je pense qu'il y a ce truc où à un moment, en fait, tu te nourris de l'adversité, et j'ai pas l'impression que sur une saison complète sur la durée, il y a forcément cette adversité là qui leur permettent de donner leur plein potentiel. Surtout que c'est une équipe, en fait, on regarde les points forts des autres, on dit, ils sont forts sur ça, ils sont forts sur ceci, ils sont forts sur cela. Mais
Maxime Toulouse... Petit, Maxime Petit, tu respectes pas l'émission.
Excuse-moi.
Tu mets pas ton téléphone sur vibreur. Ça reçoit des SMS, voilà.
Points forts de chaque équipe. Toulouse, moi, pour moi, il y a que des points forts. Il y a pas de points faibles. Moi, l'essai de Movaca, je me suis dit, mais attends, mais c'est, on parle d'un première ligne qui fait il fait fin de passe, limite un cadrage débordement. Il court sur 30 mètres.
En fait, c'est Movaca. C'est un des meilleurs joueurs à son poste.
Mais je sais. Mais tu te dis en fait, mais il y a aucun point faible. Quand il faut courir, ça court. Quand il faut pousser, ça pousse. Et moi, je les trouve vraiment, vraiment au-dessus, quoi.
Même si Pierre, ce qu'on a senti dans ce Stade de France avec une ambiance un peu particulière. Que le début de deuxième mi-temps, il y avait un espèce de climat un peu bizarre, parce que c'est vrai qu'on a vu des Toulousains, moi j'ai senti presque un peu éteint.
Ouais, c'était étonnant. Déjà, l'ambiance était très calme en début de match. Les supporters toulousains, on en parlait, peut-être qu'ils sont tellement habitués à gagner, ils ont vu que ça se déroulait bien.
Il n'y avait pas d'alcool aussi.
Et ils étaient très calmes en tout cas. Et au retour des vestiaires, là, les Montpelliérains se sont mis à jouer, ils sont sentis en danger. Et on a senti aussi que les supporters presque sont devenus intéressés par le match à ce moment-là. Maintenant, quand tu dis que le Stade Toulousain a du mal à aller chercher des choses, en fait, eux, ils se nourrissent que de l'interne. C'est-à-dire qu'il le dit, c'est nous aller battre nos records, aller battre les anciens, être seul contre tous. Dire Hugo Mola avant le match dit on sait qui est notre ennemi.
C'est toi, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Alors là, pas tout de suite. Non, mais on sait qui est notre ennemi, on sait qui nous veut du mal, on sait pourquoi on doit se battre. Et ils arrivent à cultiver ce truc-là en interne qui fait qu'ils sont super forts. Combien de temps ça va durer on ne sait pas, mais ça fait déjà 4 ans
ça
déjà.
Ça fait 4 ans. L'année prochaine, il y a quand même un défi aussi où ils vont se le mettre. C'est le 5 battre, à la suite.
Record, mais il le dit sur la pelouse. Tu te rends compte, la première chose que Mola dit aux joueurs, c'est 4 c'est bien, 5 c'est mieux.
Mais parce qu'il faut aller chercher des ressorts à un moment donné sur bien cette équipe-là. C'est-à-dire que les ressorts, peut-être que tu l'as pas dans l'adversité du top 14, mais tu peux l'avoir dans le livre des records. C'est-à-dire que 5, vous serez tout seul.
Bien sûr.
4, vous le partagez déjà avec vos aînés. 5, vous serez tout seul. Et il le met dans la tête pour que les mecs qui partent en vacances ou ils partent avec l'équipe de France avec cette idée-là de quand on revient à la prépa, c'est quoi notre défi? On est déjà 4 fois champion de France. C'est quoi le défi?
5, ouais,
pour être tout seul.
Mais même si, contrairement à ce que dit Maxime, je pense qu'ils ne se sont pas que relâchés. Je pense que Montpellier leur a vraiment, vraiment fait mal en deuxième période.
Il y a des gros plans sur Hugo Mola. Hugo Mola, il est un petit peu inquiet en deuxième mi-temps.
Ils ont vraiment eu peur, mais ils gardent toujours cette marge de 8 points d'avance qui font qu'ils sont à 2 marques finalement des Montpelliérains. Et que du coup, même en fin de match, quand Montpellier revient à 8 points à la 62e, on se dit, il y a 18 minutes, il faut marquer deux fois. C'est possible. Mais en fait, on voit que Toulouse garde quand même une petite maîtrise en fin de match.
Et puis Toulouse, défensivement, ils ont été énormes parce qu'ils prennent jaune, Mathis Lebel prend jaune, ils sont à 15 contre 14.
Ça se voit pas.
Ils sont pas inquiétés. Non. Ils sont pas inquiétés sur la période de 10 minutes où ils sont en infériorité numérique. Ils ont des mecs. Jack Willis, c'est un sacré joueur de rugby, hein, Jack Willis. Les Anglais sont en train de se dire, est-ce qu'on va pas changer la règle, en fait, des mecs qui jouent à l'étranger, ils peuvent pas. Ça leur fait mal, hein. C'est préjudiciable parce que Jack Willis, c'est 2 poumons, 4 moteurs.
Ils les ont pris comme souvent en finale, ils ont pris leur adversaire sur leur point fort. C'est-à-dire qu'en mêlée, ils ont gagné. En touche, ils les ont embêtés.
T'as l'impression qu'ils se mettent des défis en disant toute la semaine, c'est la meilleure défense, c'est la meilleure mêlée. Ok, très bien. À nous, on est une petite équipe devant. C'est vrai que nous avons, ils sont moins forts que ceux de Montpellier. Et ben voilà, on va vous montrer que on va les battre là-dessus. Mais le jeu rayonnant du Stade Toulousain, c'est bien. On a montré qu'on était capable de le faire. Et ben là, nous avons, ils vont vous montrer aussi que toutes les louanges que vous envoyez à Montpellier ou même au Stade Français, c'est quand même nous les meilleurs.
Et c'est peut-être là où justement l'UBB arrive sur un match parfois justement
l'UBB a le talent individuel aussi. Exactement.
C'est ce que je t'allais dire. C'est qu'en fait le Toulouse, ils ont tellement de talent qu'en fait ils peuvent répondre à tout. Sauf il y a un secteur où l'UBB a parfois au plus ou autant de talent.
Après l'UBB, ils ont qu'à se qualifier aussi.
Hervé a composé le 32-16 pour te parler, Stephen. Hervé,
salut
de Libourne.
Salut Steven.
ça va pas, tu m'appelles Steven.
Je t'appelle toujours comme ça. Ouais. Depuis les Jeux Olympiques, si vous avez emballé avec le basket, je m'appelle Steven.
Comment ça va, Hervé?
Écoutez, on est en vacances, nous, les supporters de l'UBB.
Parce que Libourne, j'ai l'hiver, Libourne, t'es forcément supporter de l'UBB, Libourne.
Ouais. Bien sûr, oui.
Bon, alors, cette finale
On fait du suspense toute l'année, mais c'est Toulouse qui gagne à la fin. Donc, je pense que toute l'année, les discussions et les différents débats entre qui va abattre Toulouse, il faut, voilà. Moi, je vais remettre un petit peu quelques chiffres en place. Je vais dire d'abord, Toulouse, 55 millions de budget, tous les autres sont à 40, voire moins. Deuxièmement, nombre de joueurs utilisés pendant la saison, 60 pratiquement à Toulouse, 40 chez les autres. Et puis après, j'attends le mois de juillet, parce que s'ils prennent 5 millions d'amendes, ça veut dire qu'ils auront pris pratiquement 7 millions d'amendes cette année pour le non-respect du salarié qui a plus des points de pénalité. Si ça fait réagir personne, ça fait réagir les amateurs de rugby, alors supporters ou pas de l'UBB, mais je trouve qu'à un moment donné, il faut peut-être remettre certaines choses en perspective. Après, on sait très bien, Movaca, super match, mais Movaca, elle a commencé sa saison il y a 2 mois et demi, puisqu'il était blessé avant. Même chose pour Dubon. Tamac a fait la moitié de la saison et on sait que
François
ce sport,
aussi.
Quand vous faites que la moitié de la saison, et je prendrai le contre-exemple de Thomas Ramos qui a fait toute la saison avec l'équipe de France, etc., il arrive en fin de saison, mais comme les autres clubs, sur les jantes, ils sont fatigués. Et ils ont eu la chance de terminer correctement. Voilà. Donc après, Montpellier, ils se sont ratés parce qu'ils auraient dû. Un petit coup de main de M. Ramos sur peut-être la faute de Lebel.
Pas Thomas, l'arbitre.
Luc.
Et oui, l'arbitre, exactement. Et puis Toulouse gagne. Donc je pense que l'étau se resserre et je pense que l'année prochaine, qui va être l'année de Coupe du Monde, les joueurs individuellement risquent d'avoir d'autres objectifs et que peut-être que ça sera peut-être la fin de l'hégémonie du Stade Toulousain en top 14. Il y a plein d'équipes qui sont derrière, mais pareil, ça dépendra de l'année, qui va jouer, qui va pas jouer. Voilà, c'est un long fleuve tranquille. Mais mais voilà, à la fin, comme dit, jusqu'à maintenant, c'est le Stade Toulousain qui gagne.
Mais t'as raison aussi d'insister sur toutes ces histoires qu'il y a eu autour du Stade Toulousain cette saison.
C'est parce pas que de la jalousie.
Parce qu'à un moment donné, les mecs se disent qu'il y a le salary cap, tous les joueurs qu'ils peuvent avoir, il y a des contrats de joueurs qui sont hors normes et qui sont peut-être sous-évalués pour esquiver le salary cap et que les autres équipes n'ont pas cette possibilité-là, même si on se dit un peu que parfois dans le milieu, il y a quand même des détournements à droite, à gauche de salary cap. Mais c'est vrai que Toulouse, et ils ont beaucoup de joueurs de très haut niveau.
Mais regardez, en tribune hier, il y avait Capozzo, il y avait Jelonche, il y avait Castro Ferreira, il y avait Georges-Henri Colombe.
Tous ces mecs-là, ils sont titulaires dans tous les tels de 14 et c'est les meilleurs joueurs. Donc oui, il y a un clivage.
Menoncello arrive,
le centre italien qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe du monde même et de l'équipe d'Italie. Mais oui, de toute façon, qu'il y ait des différences de budget dans tous les sports, il y en a des différences de budget. Ça, c'est les
choses.
Mais faut que ça reste dans les clous, que ça reste dans les règles. Maintenant, Toulouse a pris 2 points de pénalité, ça les a pas empêchés quand même de terminer premier du top 14 et de sécuriser leur demi-finale directement. Les sanctions, ils les payent. Maintenant, il y a d'autres clubs qui demandent des sanctions de points, mais le problème, c'est que c'est pas encore au règlement, ça sera au règlement l'année prochaine, ça.
Alors, en fait, on évoque pour l'instant, comme a dit Hervé, une amende de quasiment 5 millions d'euros. Ça commence à faire beaucoup, c'est 10% du budget quand même du club du Stade Toulousain. 3 millions pour manquement au devoir de transparence et 1,8 pour le dépassement du salary cap. C'est bien plus que la plus grosse amende qui avait été payée par un club, c'était Montpellier jusque-là. Et comme tu l'as dit, ils seront pas sanctionnés sportivement parce que le règlement salary cap, il a changé en juin 2025 et ces sanctions-là, elles concernent des saisons d'avant. Par contre, L'A2R, l'agence de régulation, peut se saisir ensuite du dossier. Et là, on pourrait avoir des sanctions sportives, mais du coup, sur la saison encore d'après.
Il y a Patrick sur le WhatsApp au 06 12 424 424, qui dit oui, on a peut-être 3 équipes, mais c'est parce qu'aussi, dans notre 3e équipe, on a énormément de jeunes. On n'a jamais eu de problème à Toulouse. Pierre de GIF, hein, ces joueurs formés localement, ils sortent aussi un vivier.
Ils ont énormément de gamins, mais le Stade Toulousain, l'entité du Stade Toulousain, attire les joueurs du coin parce qu'ils savent que.
Non, mais c'est vrai aussi que Tommaso Menoncello, par exemple, va à Toulouse plutôt qu'à Toulon, alors qu'il aurait pu gagner plus à Toulon. Ça, c'est un fait. Mais il n'empêche que ce salary cap n'est pas non plus extensible comme
Parce que Menoncello, je pense que tous les clubs du top 14, à un moment donné, Menoncello, ça nous intéresse. Mais Menoncello, peut-être qu'il va jouer beaucoup moins de matchs avec le Stade Toulousain qu'il aurait pu jouer dans d'autres clubs du top 14. Mais lui, à la fin, qu'est-ce qu'il veut? Il veut remplir la mare à trophées. Il a plus de chances de le faire avec Toulouse. Après Toulouse, l'année prochaine, il va y avoir un autre objectif. C'est que peut-être que l'UBB va mettre la Champions Cup de côté parce que ça fait 2 ans qu'ils sont champions d'Europe et que cette année, ça leur a coûté une place dans le top 6 et qu'à un moment donné, cette génération bordelaise, elle va devoir se concentrer sur le Brennus parce que c'est ce qui leur manque. Toulouse, eux, peut-être qu'ils vont à un moment donné aussi se reconcentrer sur, on aimerait bien de nouveau être champion d'Europe. Donc il va y avoir des objectifs différents.
Et on est sur une année Coupe du Monde aussi. Exactement. Donc évidemment, qui les internationaux vont devoir être gérés également.
Et peut-être que l'année prochaine, Antoine Dupont va jouer un peu plus de matchs que cette année avec le Stade Toulousain aussi. On n'a pas vu un énorme Antoine Dupont hier, même s'il met un essai en bout de chaîne sur une passe de Teddy Thomas.
Il est sorti assez vite.
Ouais, il est sorti assez vite. Écoute, avec une nouvelle coupe de cheveux, il a fait la coupe printemps-été, Antoine Dupont.
Hein. C'est très belle poignée de main avec le président de la République. Hein.
Ouais. Mais Emmanuel Macron, déjà la présentation, ça dure 25 minutes.
C'est long, c'était très long.
Il lâche un speech de 20 secondes à chaque joueur, le président de la République. Et mec, il arrive avec Antoine Dupont, c'est son sauce, gros. Il fait un Hey Tonio, comment ça va? Comment ça se passe?
Pareil qu'avec Mbappé, voilà, c'est
exactement.
Ça. On remercie Hervé qui a composé.
Merci beaucoup,
le 32-16.
Hervé. Bonne vacances.
13h22 sur RMC. Le brunch continue. On va parler de natation. Ça fait du bien, un peu
natation.
De se rappeler.
T'as bon nageur, toi?
Ah, j'aime bien la brasse. Ouais, pas trop mauvais. T'as pas l'air comme ça.
C'est pas la phrase de quelqu'un qui aime nager.
Si,
tu mets ton bonnet et tout ça, tu fais des longueurs. Tu mets ton petit slip de bain.
Exactement. Petit shorty, tu sais, un peu. Mais bon, ça va pas non plus, ça me fait pas.
Ça te met pas en valeur, j'ai l'impression.
Non, contrairement à Léon Marchand, qui est de retour en France, qui a remporté hier le titre de champion de France du 400 mètres 4 nages. Il y a encore d'autres courses au programme. La folie Léon Marchand. On en parle dans un instant dans le Stephen Brunch sur RMC.
RMC, 13h-15h, Stephen Brunch,
Arnaud Valadon, Stephen Brun.
13h26 sur RMC, la suite du Stephen Brun chaque dimanche, 13h-15h. C'est la dernière de l'année, donc venez au 32-16 pour discuter, pour débattre avec nous, avec Maxime Potti. Qui est là. Max, ça va? Ça mange des petites amandes?
Ça va.
Ça se prépare pour les championnats du monde à Hong Kong, hein, Max? Hein,
oui, on fait la diète, on fait la diète.
Qu'est-ce qu'on vise?
Alors,
par équipe?
Un div aussi. Non, attends. Attends, l'année dernière, 3e en individuel, j'ai le droit de rêver quand même.
Oui, c'était peut-être un miracle, non?
C'était peut-être un miracle. À moi de prouver que non.
Arnaud, qu'est-ce que tu vises, toi, championnat du monde à Hong Kong?
Une bonne sieste.
Une bonne sieste, bien.
Bah, en plus, ça sera en plein milieu de la nuit, avec le décalage horaire.
Non, début oui, les débuts.
C'est diffusé, mais... ça
c'est ouais comme peut-être
sur, quoi, sur YouTube la chaîne de
non il va y avoir des chaînes qui retransmettent aussi mais en général si tu me vois tirer et que t'es réveillé ça veut dire qu'en effet il est tard à Hong Kong et que je suis encore si tu me vois pas ça, tirer bon. Ça veut dire qu'à 4h du mat
quand on dit si on te voit tirer c'est en fleuret hein.
Oui en fleuret ouais, pardon
ouais. Et donc, c'est son arme le fleuret mais on a eu des bons résultats au championnat d'Europe à domicile
très correct
Anthony on a eu voilà quelques titres individuels
Jean-Patrice Martin
Jean-Philippe
Jean-Philippe Patrice, avec son frère Sébastien, voilà aussi les sabreurs qui ont brillé. Bon, on va pas parler d'escrime, on va parler de natation. Léon Marchand de retour en France à Saint-Étienne pour ses championnats de France. Il avait zappé les France l'année dernière et là il est de retour. Et puis dans un petit quart d'heure, ton invité Evan Fournier, double médaillé olympique, champion d'Europe, vainqueur de l'Euroleague avec l'Olympiakos. Il nous racontera tout cela, Evan Fournier, qui a fait aussi l'impasse sur cette fenêtre de juillet en équipe de France, puisqu'il y a actuellement un rassemblement de l'équipe de France du côté de Pau. Mais direction Saint-Étienne, où nous retrouvons notre envoyé spécial auprès de Léon Marchand et des nageurs, c'est Julien Richard. Salut Julien.
Ah Julien, à Saint-Étienne, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de connexion, non, oui, mon grand.
Je crois que la 5G un petit peu.
Si, c'est non, bon.
Ça y est. Bah oui, ça va, Julien ?
Salut tout le monde. Je refais. Salut.
Ça va ?
Dame. Bonjour. Ouais, super.
Il fait beau à Saint-Étienne ?
Il paraît que c'est une étude. On est un peu sur une. Ouais, voilà. Il y a Geoffroy Guichard, le chaudron. Et il y a la piscine Raymond Sommet, le chaudron également.
La bouilloire.
Comment tu veux, la bouilloire.
Ouais, voilà. Tu sais qu'ils mettent de l'eau froide dans la piscine.
Bah, tu m'étonnes.
Oui, bah, en fait, la l'eau, elle doit être le degré inférieur à 27 degrés, quoi, en gros, pour que ce soit correct pour les nageurs. Donc, effectivement, on injecte de l'eau fraîche, histoire que ça se réchauffe pas trop le bassin. Et puis, les nageurs aussi, ils doivent pas adapter leur routine parce qu'ils sont parqués dehors sous des tentes, donc ils ont un peu chaud. Il y a des bains froids, ils font leur réchauffement dans leur hôtel avec la clim, leur réchauffement à sec, et puis ils viennent au dernier moment à la piscine, puis ils repartent très vite. Enfin voilà, ça s'adapte, hein, c'est le sport
bien
de
sûr.
Haut niveau.
Mais parfois c'est pas mal aussi, comme ça, quand t'as la flemme, parce que t'as la flemme de t'échauffer souvent en compète, au moins t'es là, tu fais 5 minutes et c'est bon, t'es chaud, c'est bien aussi.
Il y a une effervescence de ouf à la piscine pour Léon Marchand.
Bah quand même, franchement, tu sais, les championnats de France, hier, c'était les séries le matin. Généralement, le matin, les tribunes sont assez dégarnies. Il y a les familles des nageurs et puis ça se limite un peu à ça. Là, c'était plein. Alors, c'est pas la Paris La Défense Arena, hein, mais il y avait quand même un bon millier de personnes. Donc, pour des séries le matin de championnat de France, ça veut dire quelque chose. Et puis, tu sais, ce qu'on voit aussi, qu'on ne voyait jamais avant ou très rarement, c'est les pancartes avec des t-shirts aussi.
Léon, épouse-moi.
Léon, épouse-moi. Oui, Léon, j'ai eu des bonnes notes. Viens me faire un autographe.
Beaucoup de jeunes d'enfants.
Un selfie, voilà. Des enfants, ouais, c'est un peu un modèle pour ces enfants-là. C'est assez bluffant de voir ça, parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas forcément l'habitude, je le répète, mais pour un sport comme la natation, d'avoir un tel degré de notoriété, il y avait eu évidemment des stars, hein, Laure, Alain Bernard, etc. Mais là, c'est un degré, quand même, un niveau un peu supérieur, je trouve.
Et j'ai l'impression que, médiatiquement, il est quand même passé dans une autre dimension, Léon Marchand, et qu'aujourd'hui, c'est devenu. Alors c'est un peu le même, on peut faire le parallèle avec Victor Wembanyama qui au début était plutôt accessible avec les médias.
Mais qui est obligé de parler tout le temps.
Oui, mais et ces mecs-là s'en font de plus en plus rares. C'est-à-dire que c'est une génération aussi où médiatiquement ils ont envie de faire des choses autres que les médias classiques, télé, radio, avec tout ce qui peut se faire à côté sur digital et sur le numérique. Mais aujourd'hui, ces garçons-là sont devenus des superstars et pouvoir discuter avec eux, c'est de plus en plus compliqué, j'ai l'impression.
Ouais, notamment au niveau des périodes hors compétition et au niveau de l'entraînement où il ferme beaucoup. En fait, c'est assez simple, il dit non à quasiment tout. Même avec d'ailleurs les sponsors, hein, c'est un truc à noter aussi quand on a un tel degré de notoriété. C'est-à-dire que il a vraiment limité au strict minimum ses partenaires finalement, qui sont de très haut niveau, de très haut rang. Et surtout, la condition, c'est d'avoir le moins de contraintes, le moindre date, si tu veux, à donner justement à ce partenaire. C'est-à-dire, voilà. Donc c'est parce que la priorité, ça reste et ça va rester encore. la natation et ça veut dire quelque chose.
C'est normal aussi.
Parcours, hein. Ouais, mais ça veut dire quelque chose. Tu vois, c'est que quand t'as atteint quatre titres olympiques, tu pourrais dire bon bah voilà, je vais un peu lâcher du lest, profiter. Etc. Ça s'est pas trop joué comme ça pour lui. Hein. C'est-à-dire qu'il est très vite reparti. Après, là, il y a eu une petite année l'an dernier où il a fallu qu'il dégère tout ça, qu'il s'adapte. Il était parti en Australie. Après, il avait réduit son programme au championnat du monde, mais très vite là cette année, ils ont morflé à l'entraînement. Il a morflé avec ses coéquipiers du groupe d'entraînement de Bob Bowman à Austin. À tel point qu'il était presque en surentraînement il y a encore un petit mois, ils étaient en stage en altitude, voilà. Donc il s'est vraiment recentré et concentré là-dessus et il change pas ses habitudes. C'est-à-dire qu'en gros, il dit non, il n'y a pas grand-chose. Et si ce n'est, tu vois, aussi, pareil, petite anecdote, mais hier, après sa finale du 400 mètres 4 nage, on va reparler de son chrono, oui, etc. Mais juste, il avait dit au personnage des médias, c'est trois questions. Effectivement, c'était trois questions, pas une de plus.
C'est lui, c'est lui qui dit trois questions.
44. C'est son... Oui, c'est lui. Hein, c'est lui qui. En fait, c'est tout est timé. C'est mais ça, il en a pris l'habitude avec Bob Bowman depuis des années. Tout est timé, et, notamment pour la récupération. Et donc, ces trois questions, ça a duré 44 secondes montre en main. J'ai tout chronométré en enlevant les questions. Si on prend juste la voix de Léon, on a eu 44 secondes de Léon Marchand hier. Mais je pense que ça illustre assez bien la façon dont il codifie finalement tout ce qu'il a à faire dans une journée pour tenir une semaine de compétition entière à un haut niveau.
J'allais dire que c'est parce que c'est le début, c'est la première journée, et que peut-être sur la fin, quand il aura fini tout ce championnat de France, peut-être qu'il y aura un débrief un peu plus long, un peu plus complet, et que là, il a envie de rester dans sa
compétition. La maîtresse, elle est sévère au début de l'année, puis après, elle a joué. Voilà.
Elle était sévère toute ma carrière, la maîtresse.
Je pense qu'il y a un intérêt sportif, bien sûr, mais il y a aussi, voilà, tu le disais, Julien, il y a les partenaires, en fait, aussi, c'est qu'en fait, Léon Marchand, c'est devenu un produit de luxe. Et il y a des sportifs qui ont besoin de beaucoup communiquer, de se montrer parce qu'ils sont sous-médiatisés. Lui, il a la chance, enfin, le talent surtout, d'avoir fait 4 médailles d'or olympiques. Bah, aujourd'hui, c'est un événement quand il arrive sur une compétition, là, comme, enfin, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il y a du monde qui réagit, bah, c'est devenu un produit de luxe et sa communication, non seulement, bah, peut-être qu'elle l'arrange, mais aussi même au niveau des partenaires, en fait, un mec comme ça qui dit, moi, je parle pas trop aux médias, ça crée aussi la légende. Ouais,
après, il a
ce qui est rare et cher.
Bien sûr, après, il a des obligations. À LVMH, il a fait la Fashion Week, il était avec Victor Wembanyama parce que c'est quand même pour son partenaire premium et que ça, il a accepté de le faire, d'ailleurs, assis à côté de Bernard Arnault, tranquillement sur le défilé Louis Vuitton. Mais moi j'aime bien, en fait, j'aime bien cette mentalité de moi, ok, je suis peut-être une superstar. Il a eu du mal à s'habituer à ça, il a dit qu'au début c'était compliqué de plus pouvoir vivre normalement et qu'aujourd'hui il s'adapte un petit peu, mais qu'il soit concentré sur le sportif. Moi j'ai envie de le voir gagner et lui il a encore envie de gagner à Los Angeles, il a envie encore de prendre des médailles olympiques et je trouve ça bien qu'il disperse pas trop, que ça devienne pas un produit commercial et qu'on le voit. Moi j'aime bien quand il y a peu d'interviews de grandes superstars comme ça, mais quand il y a des bonnes interviews où tu découvres exactement ce qu'il a à dire depuis, il n'a pas parlé depuis un an. Moi, je trouve ça plus intéressant qu'un mec qui, tous les 15 jours, il commence à parler, à raconter sa vie. Après, c'est un peu moins intéressant.
Oui, tout ce que je vous décris là, c'est justement pas pour critiquer.
Non,
juste pour montrer exactement, voilà, que
comment il
ça,
fonctionne.
Je pense que ça montre aussi que dans son fonctionnement, il est tourné vers les Jeux de Los Angeles. Et c'est quand même une information parce que après le tourbillon de Paris 2024, c'était pas gagné non plus. Enfin, combien se sont un peu perdus,
oui.
Et notamment dans des sports comme la natation, c'est quand même très compliqué, quoi. Et il y a une stat en France, jamais un champion olympique, alors on en a pas eu 40, mais n'a réussi à conserver son titre sur les Jeux olympiques suivants ou un peu plus tard à regagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc c'est aussi l'enjeu, le défi de tout ça pour Léon sur ces années actuellement.
Et si on parle de sport, sa course hier, ouais, elle est étonnante parce qu'à cette période-là de l'année, on n'attendait pas forcément peut-être un chrono aussi performant. C'est quoi, c'est 4-4-56, hein, c'est ça, sur son temps, 12 secondes d'avance sur le deuxième meilleure performance mondiale de l'année. Alors qu'on dit que les championnats de France, il faut faire des temps pour se qualifier pour les Euros, mais ça laisse présager peut-être de quelque chose d'exceptionnel à Paris, à Saint-Denis pour les championnats d'Europe.
Oui, parce que pour peut-être un peu décrire ce que ça signifie cette performance, là, c'est 4 minutes 4 secondes et 56 centièmes, donc c'est à, en gros 2 secondes de son record du monde. C'est la cinquième performance de l'histoire sur 400 mètres 4 nage. C'est-à-dire que Léon, il en a 4 sur 5. Il a nagé seulement 3 fois plus vite dans sa carrière. Il a nagé plus vite lors de son record du monde en 2023, aux Jeux d'hiver à Paris, et sur son premier titre mondial en 2022 à Budapest. Donc, mais ça veut dire que là, ce qu'il a fait hier, c'est plus rapide, par exemple, que ce qu'il avait nagé l'été dernier pour devenir champion du monde pour la troisième fois à Singapour. C'est pour vous situer un petit peu le niveau de performance, et surtout à cette période de l'année, effectivement, il n'est pas prêt à 100%. Alors, il a réduit le kilométrage, il a fait un peu de récupération, parce que je vous le disais, il y a encore 15 jours, il avait dû arrêter une
compétition de préparation chez lui à Austin en plein milieu parce qu'il était tombé malade après un stage en altitude.
Ah bon, on est en train de perdre Julien Richard.
Ah, Julien, bon, toi aussi tu vas t'arrêter, Julien, pour récupérer un peu.
La connexion
est compliquée à Saint-Etienne.
Tout ça pour vous dire que ce chrono-là, il n'avait jamais nagé aussi vite à cette période de l'année. Pas préparé, ça veut dire que dans un mois, il sera beaucoup plus frais au championnat d'Europe. Et il nous l'a dit.
Hein. Le fantasme, c'est que la barre des 4 minutes. Hein.
Bien sûr. C'est-à-dire que le record du monde, il nous l'a dit il y a quelques semaines de cela. On avait eu en visio, il nous avait dit, moi, mon objectif, c'est de battre mon meilleur temps à Paris sur sa première course, qui sera ce 400 mètres 4 nage devant le public français au Centre Aquatique Olympique. Au-delà de ça, au-delà du record du monde, ce qui fait presque plus de doute, c'est cette fameuse barrière des 4 minutes qui serait inimaginable il y a encore quelques temps de voir tomber cette barrière. Tout le monde fantasme là-dessus dans le milieu de la natation. Effectivement,
moi,
je pense que lui aussi, il l'a dans la tête.
Merci beaucoup, Julien.
Merci Julien, jusqu'à jeudi. Merci, les championnats de France, on reverra évidemment Léon Marchand, pas ce soir, mais
demain
il sera présent. 6 courses au total au programme, il y en a déjà une pour Léon Marchand. Ton invité arrive dans quelques instants, Stephen. Evan Fournier, on va parler basket, ça va évidemment te faire plaisir.
Je l'aime, Evan.
Le 32-16 est ouvert pour venez poser vos questions à Evan Fournier, donc vainqueur de l'Euroleague et plus que jamais épanoui dans son club de l'Olympiakos. C'est le Stephen Brunch, il est 13h37 sur RMC.
RMC, 13h-15h, Stephen Brunch,
Arnaud Valadon, Stephen Brun.
13h38 sur RMC, la suite du Stephen Brunch avec Maxime Potti et Arnaud Valadon, et c'est l'heure d'ouvrir la page du meilleur sport du monde, Arnaud, le basket.
Absolument, avec ton invité qui est là, double champion de Grèce, champion d'Euroleague avec l'Olympiakos, évidemment, n'oublie pas tout ce qu'il a fait avec l'équipe de France, les 2 médailles d'argent, mais il vit en ce moment une période incroyable dans l'un des plus beaux clubs du monde, l'Olympiakos. Evan Fournier est ton invité, Stephen.
Salut Evan.
Stephen, ça va quoi?
Ça va quoi, merci beaucoup d'être là pour la dernière du Stephen Brunch. T'es en vacances là?
Oui, fort.
Fort, ouais, j'ai cru comprendre que tu visitais les endroits merveilleux de la Grèce. Hein.
Ouais, je suis sur un bateau là, tout de suite là.
T'es sur un bateau. On t'attendait plutôt du côté de Pau, Evan. Tu fais une petite pause parce que le championnat a été trop long?
Ah, c'était compliqué, je peux te dire, c'était compliqué. C'était pas prévu, mais bon, j'ai préféré ne pas venir parce que mentalement c'était compliqué, mais physiquement c'était encore plus dur. Donc voilà, j'ai fait l'impasse sur cette fenêtre.
Pas de blessure, c'est juste une fatigue physique.
Non, pas de blessure, c'est juste. Les fins de saison sont dures à ce stade avancé de nos carrières, comme tu peux le savoir.
Quelle folie, on va revenir sur cette saison, cette saison Evan, c'est ta deuxième avec Olympiakos, t'as réussi ce pourquoi tu étais venu, c'est-à-dire être champion d'Europe dans une ambiance exceptionnelle devant vos fans à Athènes, toi qui, on disait qu'il n'avait pas beaucoup gagné en club, notamment quand t'étais en France et en NBA, j'imagine que c'est le moment, je ne vais pas dire le plus merveilleux de ta carrière, mais c'est un summum de ta carrière, ce titre de champion d'Europe.
Non, je dirais pas que c'est le summum. J'ai eu beaucoup de très beaux moments avec l'équipe de France. Après, c'est un des highlights forcément parce qu'en fait, c'était une ambiance extraordinaire. C'était une célébration pour toute une ville, tout un peuple, pour être honnête. La parade qui a suivi derrière le match était extraordinaire et donc voilà, ça fait des. Je vais me rappeler toute ma vie de cette soirée-là et c'est exactement pourquoi je suis rentré quoi.
Et bien après vous avez enchaîné avec le titre de Grèce dans une ambiance, Evan, faut qu'on parle de ça parce que quand on est en France nous, on voit des images de cette confrontation Olympiakos-Panathinaikos dans une ambiance délétère chaque année, dans une ambiance délétère les images sont plutôt parfois un peu catastrophiques, il n'y a pas un match qui se passe correctement entre les déclats du coach du Pana, les bagarres, les expulsions et on a l'impression que cette ambiance elle rejaillit un peu sur tout le monde, même toi parfois t'es un peu surexcité quand tu joues ces matchs-là. Raconte-nous cet antagonisme exacerbé qu'il y a entre le Pana et l'Olympiakos.
C'est inexplicable, il faut le vivre. Écoute, moi, on m'avait prévenu en arrivant de la rivalité, mais même en Serbie, ils sont capables de faire des finales où il n'y a pas de problème, avec des supporters dans le stade des deux équipes. Nous, c'est impossible. Nous, quand on va au Pana, il n'y a aucun supporter de l'Olympiakos. Quand le Pana joue chez nous, il n'y a aucun supporter du Pana. Et non, c'est chaud. C'est un environnement assez toxique, hein, pour être honnête. C'est pas l'environnement le plus fun. Par contre, c'est la guerre, quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, on fait les finales grecques après l'Euroleague. Et franchement, quand tu gagnes l'Euroleague, tu fais les célébrations, etc., et qu'après t'as une deuxième guerre qui t'attend, ouais, c'est compliqué, tu vois. Donc ça fait aussi partie de la beauté de ce championnat, c'est que les deux équipes se haïssent tellement qu'en fait ça te donne des finales assez explosives.
Et dans la vie de tous les jours, ça va, enfin, je veux dire, parce que c'est la même ville, donc au final dans la rue, c'est quoi, c'est quand tu vois un maillot du Pana, faut baisser la tête, faut se cacher, enfin ça va, c'est tranquille quand même.
Non, pas du tout. Non, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que les gens dans la vie de tous les jours sont très respectueux. Ils ont juste un amour pour leur équipe qui est assez incroyable. Et souvent, les fans du Pana viennent me voir en me disant, écoute, je suis Pana. Par contre, direct, ils te le disent. C'est plus fort qu'ils disent, moi, je suis Pana. Par contre, voilà, je te kiffe, viens prendre une photo, quoi. Mais j'ai eu aucun problème depuis que je suis arrivé en Grèce. Zéro.
Evan Fournier, l'invité du Stephen Brun sur RMC.
Par contre, notre gars Mousse qui signe au Pana, Evan, c'est comment?
Moustapha Fall, oui.
Vas-y, viens, on parle de trucs qui font sourire. Écoute, c'est une belle opportunité pour lui. J'espère qu'il kiffera sa décision. Voilà. Après, c'est sûr que les fans, ils sont pas contents. Quoi. Mais bon, c'est comme ça.
Hein. J'imagine. Et Evan, pour revenir sur ce choix de carrière, moi, je t'avais quitté après la médaille d'argent à Paris 2024, où t'avais pas vraiment de club, où la suite en NBA était un peu floue. Tu t'étais même posé la question de qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête même le basket. Finalement, ce défi de l'Olympiakos, c'est un club où tu avais déclaré un peu ta flamme parce que tu avais vu un Final Four et tu avais dit les supporters sont fantastiques. Ce choix de faire une croix sur la NBA, c'est peut-être une décision, même la meilleure décision de ta vie, non?
Écoute, j'aurais fait une grosse bêtise de pas continuer ma carrière, ça c'est sûr. Après, en sortie de JO, c'est vraiment quelque chose auquel j'étais prêt à faire parce que je voulais pas tomber dans une équipe NBA où je me retrouvais pas, comme tu le sais, des fois il y a des équipes qui jouent pour gagner et il se trouve que je n'avais pas de contrat avec ces équipes-là. Et il y avait une possibilité de jouer dans une équipe, mais pour faire du mentoring, etc. Et ça, pour moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, ce que j'aime, c'est la compétition, c'est les grands moments, c'est pas. Je voulais pas me mettre en pré-retraite. Et donc, j'ai fait ce choix-là. Je suis parti en vacances avec ma femme. On a réfléchi. Et puis, je suis venu à la conclusion que voilà, je peux continuer de jouer. J'ai encore beaucoup à donner. Et mon option, clairement, c'était de venir ici. Et ça s'est fait, quoi.
Et t'as vécu un autre moment d'émotion il n'y a pas si longtemps que ça, puisque le club de tes débuts, Charenton, va donner ton nom au Palais des Sports, près du Bois de Vincennes. Ouais. C'est beau, c'est une grande fierté, ça, pour toi.
Écoute, franchement, c'est une dinguerie parce que je suis pas quelqu'un qui. La reconnaissance, bon, forcément, ça fait plaisir, mais c'est pas quelque chose auquel. Tu vois, je cours pas derrière, mais c'est juste que. En fait, c'est vraiment cette salle qui. Enfin, j'ai tout vécu dans cette salle. J'ai fait un nombre d'heures incroyable, j'ai fait la table de marque, je faisais de l'arbitrage. J'ai vraiment vécu dans cette salle, en fait. Et donc, le fait que cette salle où j'ai tant de souvenirs porte mon nom maintenant. Ça m'a procuré beaucoup d'émotions et puis c'était une surprise en plus, donc je m'y attendais pas. Et ouais, je sais pas, c'était fort. Il y avait mes anciens coachs, il y avait ma famille, il y avait tout ça, il y avait mes enfants.
T'as pas pleuré quand même. Ouais. T'as lâché une larme, quoi.
Franchement, j'ai lâché ma larme.
Ah ouais, Bravo, c'est top. Mais t'as une vraie attache, toi, avec le Val-de-Marne et ce club de Charenton, ton numéro 94, qui est en hommage à ça. Mais il y a quoi de spécial dans ce club-là? Parce qu'il y a toi, il y a Laou Konaté, Jérémy Enzoli, pas comme Davier, Mohamed Diawara, qui est joueur d'Enix, il sort de Charenton. C'est un club qui est très fort sur la formation.
Bah écoute, en fait, à mon époque, c'était pas encore à ce niveau-là, pour être honnête. C'était pas encore à ce niveau-là. C'était un bon club d'Île-de-France. Mais justement, c'était pour ça que moi, je suis attaché au club, en fait. C'est que moi, déjà, je suis de Charenton. Donc, en fait, c'est le seul club pour lequel j'ai joué en jeune. Et donc, en fait, j'ai fait de mini-poussin jusqu'à ce que je parte à l'INSEP. Et on avait une génération assez exceptionnelle qui a fait qu'on a gagné tous les titres possibles en Île-de-France, en France, tout, quoi. Et donc, on a vraiment réussi à créer un espèce d'élan autour du club. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, on est la seule équipe minime à avoir fait le back-to-back, champion de France. Et en fait, grâce à ça, on commençait à recruter des joueurs qui sont forts dans l'Île-de-France. Et grâce à ça, le club est vraiment répertorié maintenant, tu vois. Et ils recrutent d'un peu partout. Et donc, ça a vraiment un peu lancé le club. Et donc, c'est pour ça que c'est une fierté pour nous, quoi. Voilà.
Eh ben bravo. Bravo Evan. Et dis-moi, on va parler un peu de NBA. Quand t'étais en NBA, tu disais, ah, l'Euroleague, je suivais pas trop parce que j'étais tellement focus sur, ouais, sur les adversaires, sur le scouting, sur machin. Est-ce que maintenant que t'es en Euroleague, t'as suivi un peu la NBA ou t'as mis ça de côté?
Franchement, la même chose. J'ai regardé un match cette année, c'était à Noël, parce que c'était à une heure correcte. Sinon, je regarde pas. Franchement, c'est compliqué, je trouve, de suivre la NBA en tant que joueur européen. Parce que bah, déjà, c'est tard. Les matchs sont vraiment tard. Et puis, je sais pas, c'est, je suis passé à autre chose en fait. Je suis passé à autre chose, j'ai fait 12 années là-bas.
T'as déconnecté des Knicks totalement ou t'as quand même suivi le titre incroyable des New Yorkais?
Bah, j'ai forcément suivi les finales. Pareil, j'ai pas regardé le match, mais j'ai quand même forcément suivi les finales. Parce que bah, parce qu'il y avait Victor, oui, parce que c'est les finales NBA, parce qu'il y avait mes anciens coéquipiers de New York. Donc forcément j'ai suivi. Et... mais bon. Dis-moi.
Non, t'as côtoyé Jalen Brunson 2 ans à New York. Est-ce que tu le voyais capable, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur lui, trop petit, pas assez bon défenseur pour emmener une franchise au titre de NBA, quand les 2 ans que tu as passé avec lui, toi tu le voyais capable de faire ça?
Non, franchement non. Non, faut être honnête, non. Alors je le voyais très gros joueur, All-Star, tout ça. Mais c'est vrai que mener une équipe au titre, je ne l'imaginais pas faire ça. Après. Comme dans beaucoup de titres, faut avoir aussi un peu de chance
et
avoir
les
tu vois, le momentum, les planètes qui s'alignent, etc. Mais même ce qu'ils ont réussi à faire les Knicks, c'est magnifique et voilà, c'était très fort, malheureusement pour Victor.
Evan, là t'as été élu MVP des finales de l'Euroleague, donc ça veut dire que t'étais élu meilleur joueur, acteur majeur. Moi, je t'ai entendu dire que les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, tu serais ravi de pouvoir y participer. Du coup, tout à l'heure tu disais, moi le mentorat c'est pas mon truc. Est-ce que quand tu te projettes sur les Jeux de 2028 avec l'équipe de France, c'est pas en te disant j'ai encore dans les jambes la possibilité, là je suis MVP en Euroleague, j'ai encore dans les jambes la possibilité de peut-être donner ma meilleure partition à l'équipe de France, en plus après des saisons à enchaîner des matchs sur les règlements FIBA qui faisaient qu'avant quand t'étais en NBA fallait se réadapter aux règles, est-ce que c'est pas ta meilleure partition que tu peux donner pour 2028?
Ouais, c'est compliqué de répondre ça parce que franchement des gros moments en équipe de France j'en ai eu, tu vois, je peux pas te dire ce sera mon plus gros moment. Après je suis capable de beaucoup donner encore, ça c'est sûr. Mais déjà, je t'avoue que je me projette pas jusque là. Bien sûr que moi je vais tout faire pour faire partie de l'aventure et faire partie du groupe, etc. Après déjà faut se qualifier pour les jeux. Déjà c'est pas fait, c'est pas du tout fait. Mais moi comment je vois le truc, écoute, je vois que je suis en forme, je vois que je vais très bien, je pense que j'ai un vrai coup à jouer par rapport à cette équipe, je peux vraiment l'aider sur plein d'aspects différents. Et puis écoute, si ça se fait ça se fait, on verra, mais je pense pas que je sois capable de faire ce que j'ai pu faire par le passé, de jouer 30 minutes tu vois, mener l'équipe contre Team USA, des trucs comme ça. Bon, les cannes commencent à être fatigués, tu vois, mais sur un rôle peut-être.
Je t'ai vu mettre quelques petits homards quand même cette année, hein. Alors, c'était avec les ongles, mais.
J'en ai mis deux, donc t'as dû voir les bons matchs. Mais voilà, quoi.
Mais surtout, t'as montré cette année, Evan, parce que l'image que tu pouvais renvoyer, c'est que toi, tu voulais absolument jouer 30 minutes, que tu veux chuter tous les ballons. On a quand même vu cette année avec Olympiakos que t'as vu que Tyler Dorsey était surtout très chaud sur les débuts de rencontre, et que toi, sortir du banc et avoir un impact en sortie de banc, ça te posait pas de problème.
Ouais, mais ça, tu sais, cette réputation que les gens m'ont donnée, c'est des conneries. Je sais pas pourquoi les gens m'ont collé ça à la peau, parce que j'ai une forte personnalité, peut-être, je sais pas, mais moi j'ai toujours mis l'équipe avant moi. Et ça, c'est quelque chose que les gens qui m'ont côtoyé peuvent témoigner. Bon, malheureusement, les gens sont pas toujours de ton côté, donc c'est vrai que des fois, on a pu me mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça, mais c'est des conneries, tout simplement.
Et sinon, Coupe du Monde de foot, tu suis un peu?
Pardon?
La Coupe du Monde de football, ça t'intéresse?
Écoute, j'ai regardé les matchs de l'équipe de France pour l'instant, mais sinon les autres matchs, non, je sais pas pourquoi.
Algérie, ça t'intéresse pas?
Bah écoute, on s'est pris une belle branlée les premiers matchs. Mais on a réussi à se qualifier, donc ça va. Mais ouais, je sais pas, je la trouve moins prenante cette Coupe du Monde.
Pourquoi? Parce qu'il y a trop de matchs, il y a trop d'équipes peut-être, non?
Bah déjà, il y a beaucoup de matchs pourris, ouais, je trouve. Et en fait, il y a beaucoup de politique autour de cette Coupe du Monde. qu'il n'y a pas habituellement. Mais écoute, je pense que là, à partir des huitièmes, ça va commencer à être sérieux. Là.
Très bien. Evan, merci beaucoup pour ta disponibilité. Je te laisse sur ton joli bateau. Tu vas faire quoi, un petit plongeon là?
Écoute, non, là c'est lunchtime. Là.
Ah, c'est lunchtime?
Lunchtime, yes.
Très bien.
Eh ouais, en Grèce, on mange tard, non?
C'est vrai, t'as bien raison. Quel merveilleux pays, la Grèce. Hein, pour le basket,
c'est incroyable.
Mais surtout pour les plages, pour la mer. Pour c'est exceptionnel. C'est exceptionnel.
Ouais,
Evan, merci beaucoup pour ta disponibilité. Bravo à toi. Et puis j'espère te voir fin août pour la deuxième fenêtre de l'équipe de France, quand même.
Ouais, je serai là. Je serai là, pas de soucis. Je serai là.
Ça marche. Merci beaucoup, Evan. Bonnes vacances.
Ciao,
à toi.
Steven.
Profite bien. Ciao,
allez,
ciao.
Merci.
Evan Fournier, donc ton invité, double médaillé d'argent olympique, double champion de Grèce. Il y a quand même un beau palmarès, ouais. Evan, quand
magnifique
on commence
joueur
à regarder.
Et l'humilité, parce que là, encore une fois, il a été MVP des finales. Donc en fait,
tu vois, il s'en fout de ça. Lui, il voulait vraiment un titre collectif.
Non, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, moi, quand je lui pose la question sur Paris, machin, moi, je me dis, là, tu sors d'une finale d'Euroleague où t'es MVP, machin. Je me dis, là,
il va pas débarquer et dire, je vais être le leader de l'équipe de France. C'est Victor Wembanyama,
quand même. D'accord. Mais franchement, moi, je m'attendais à un truc, ouais, je pense que je peux, si je continue, c'est parce que je peux encore être.
Il va être bon.
Mais moi j'étais surpris de sa réponse. C'est beaucoup d'humilité. Ah, c'est
un super mec, Evan.
Il y a autre chose qui fait parler dans l'actualité de basket, c'est peut-être un Big Bang. Tony Parker est officiellement coach de l'ASVEL, Stephen.
Ouais, alors,
actionnaire désormais minoritaire, avec l'arrivée d'investisseurs. On attend un budget de plus de 50 millions d'euros, une masse salariale incroyable. Sylvain Francisco arrivera en tête de proue, l'excellent meneur français qui a fait des super saisons à Kaunas. Quel est ton regard là-dessus? C'est une folie, c'est incroyable, c'est excitant.
Déjà pour notre sport, le basket français qui a du mal à se faire une place médiatiquement aux côtés du football et du rugby. Quand je parle du basket, c'est le basket français.
En France,
la NBA existe, mais c'est vrai que notre championnat il a besoin de ça. Alors ça fait grincer des dents toujours, parce que quand Tony Parker est au centre d'un projet, ça fait toujours grincer des dents. Moi, je vais pas détruire un mec avant qu'il commence. En fait, moi je suis content pour le passionné de basket que je suis. Moi, j'ai pas de parti pris, je suis pas supporter de telle ou telle équipe. Je peux comprendre qu'il y ait d'autres clubs qui aient peur parce que l'ASVEL va peut-être marcher sur le championnat de France et peut-être déséquilibrer l'équilibre qu'il y a aujourd'hui où Monaco, CB Monaco et Paris, ça va bouleverser un petit peu tout ça. Mais moi, je suis content de voir des grands joueurs revenir dans le championnat. Moi, je vais me régaler tous les week-ends à voir des Sylvain Francisco, des Daniel Theiss aussi qui va rester en France, qui va passer de Monaco à l'ASVEL. Je suis content de revoir Vincent Collet. Il se construit un staff à la manière de ce qu'il a vécu lui en tant que joueur, c'est-à-dire un staff NBA. En NBA, t'as un head coach et t'as énormément de monde autour qui s'occupe de beaucoup de choses. Il se construit un staff comme ça. Je trouve que c'est très bien pour le basket français. Maintenant, Tony, on l'attend bien sûr sur le banc de touche. On veut voir des résultats de ce qu'il est capable de produire en tant que coach. Mais je vais pas commencer à taper sur Tony Parker coach alors qu'il a pas commencé à coacher. Pour le basket français, c'est une merveilleuse nouvelle. Le fait d'avoir Villeurbanne encore qui retrouve les sommets avec beaucoup d'argent et beaucoup de grands joueurs qui reviennent dans le championnat de France pour la Betclic Elite, c'est merveilleux. Pour l'Euroleague, il va forcément avoir des ambitions de champion d'Europe. Tu ne veux pas envoyer 50 millions de budget, 20 millions de masse salariale et te dire que tu veux juste jouer le play-in en Euroleague. Donc il y a des vraies ambitions. Moi, je trouve ça très bien. Après, bien sûr, il y a toujours cette curiosité de Tony sur le banc de touche. Il y a des gens, j'entends déjà des trucs. Il a pris 30 points contre Team USA parce que Tony Parker est coach de l'équipe de France des U17 qui sont en train de faire les championnats du monde. Il a pris 30 points contre les Américains. Super! Mais tout le monde prend 30 points. Et encore 30 points, c'est bien. Ils en mettent 50 ou 60. C'est une autre planète, Team USA, les moins de 17 américains par rapport à notre équipe-là. Donc arrêtons. Arrêtons le bashing Tony Parker. Moi, je suis très content. Quand il faudra dire du mal de Tony parce qu'il coach mal, on le dira. Mais pour l'instant, c'est très alléchant et c'est très bien pour le basket français.
Et notez le match ASVEL-Roanne, Tony Parker contre TJ Parker sur le banc de touche. Ça peut promettre. Tiens, on peut accueillir rapidement Kevin qui a composé le 32-16, grand fan de basket.
Salut Kevin.
Salut Maxime.
Salut Kevin.
Ça va,
toi, tu nous appelles d'où?
Eh ben écoute, à côté de Nantes, nord de Nantes.
Très bien, Nantes qui a fait une très belle saison en Elite 2 au basket.
Mais écoute, j'ai remis les pieds un petit peu à la trocardière et puis bon, on a eu la chance de voir Nathan Soliman en plus sur la deuxième partie de saison, qui est un futur peut-être top 5 sur le draft NBA et qui joue actuellement justement avec l'équipe de Tony Parker et beau joueur.
Bon, Kevin, fantastique joueur.
Kevin sur Tony, toi ça te fait envie de le voir sur un banc de touche?
Alors, envie, je pas, non, pas forcément. Par contre, je rejoins Stephen. Voilà, moi, je suis pas un grand fan de l'après-carrière de basketteur de Tony Parker et du personnage, en toute honnêteté. Maintenant, je veux pas non plus lui taper dessus parce qu'il faut laisser la chance au produit. Ce qu'on peut lui reconnaître, c'est que c'est quelqu'un qui ose tout et qui, quand il fait quelque chose, il essaye de faire le mieux possible et il donne les moyens de le faire. Il fait pas tout bien, mais en tout cas, il va tout faire. Il a eu l'humilité de repasser par la formation, de s'associer à Vincent Collet sur le banc de touche, donc de faire les choses bien, d'avoir les moyens qu'arrive à l'ASVEL. Bah ouais, c'est une très bonne nouvelle pour le basket français aussi. Je pense que ce championnat de Betclic Elite qui monte en niveau. On a commencé à avoir des résultats aussi sur la scène européenne. Alors Monaco va peut-être disparaître du circuit, mais on voit qu'avec Bourg, avec Paris, le Paris Basketball et puis l'ASVEL qui avait avec des moyens, bah c'est aussi ramener un petit peu les jeunes basketteurs dans les salles, parce que la NBA, bah comme l'a dit tout à l'heure Evan, c'est pas toujours facile à suivre. Donc ça peut être qu'une bonne nouvelle et bah moi je lui souhaite de la réussite. Je lui souhaite de la réussite clairement.
Merci beaucoup Kevin d'avoir composé le 32-16 pour intervenir dans le Stephen Brunch dans un
Merci
instant.
Merci beaucoup Kevin. Dans un instant, qu'est-ce qu'on fait ?
Le foot, l'équipe de France, France-Suède, mardi, 23h, 16e de finale, enfin les matchs couperaient. On sort en direct de Boston et puis on suivra en direct le Grand Prix MotoGP des Pays-Bas pour la dernière du Stephen Brunch.
Il est
obligé de mettre de la moto.
C'est obligatoire ?
Oui.
D'accord.
Exactement, et on parlera de Wimbledon, autre sport qui était cher, le tennis. Ça démarre demain, le Stephen Brunch, jusqu'à 15h.
RMC, 13h-15h. Stephen Brunch.
Arnaud Valadon, Stephen Brun.
Sur RMC, c'est le Stephen Brunch, il est 14h05, la deuxième heure de votre émission préférée, qui est podcastable si vous avez loupé la première heure, bien entendu. Evan Fournier était avec nous, le vainqueur de l'Euroleague, l'international français, qui nous a raconté plein de choses. Vous pouvez la podcaster sur toutes les plateformes de téléchargement. Et vous pouvez podcaster la première heure aussi pour écouter Maxime Potti, qui nous a raconté ses championnats d'Europe. Ça va, Max, t'es en forme ?
Ça va. Mais deuxième heure et dernière heure de la saison.
Exactement, c'est la dernière de Stephen Brunch. On se retrouvera fin août pour la saison 3. Tu seras avec nous, Max ?
Bah, avec plaisir.
Je sais pas, si je reçois
comme l'année dernière le message d'urgence deux jours avant. Max, t'es là en août ou pas ? Et bah oui, j'arrive.
Je sais pas, t'avais des projets pour quitter la France.
Et finalement, je reste.
Ah,
je t'aime trop, je reste.
Je préfère payer tes impôts en France plutôt que de partir.
C'était quoi, Stephen ? Fin de l'année scolaire, les dernières heures, c'est.
Ah, moi, je l'ai pas. C'est-à-dire, moi, j'étais plus à l'école, déjà, Arnaud. Les fins d'année scolaire où tu faisais des jeux de société pourris, tu sais, quand t'avais pas d'examen, c'était une garderie en fait, c'était même pas l'école.
C'est bien, ça fait du money. On est ensemble, les amis.
On est ensemble, ouais, c'est super. On fait un Uno contre Uno, ça se termine mal parce que t'as perdu, voilà.
Et tu balançais des cartes.
Exactement.
Surprenant.
Le Uno, c'est pas un jeu. Tu penses que c'est la convivialité, le Uno, mais tu t'aperçois que c'est pas vraiment la convivialité.
Souvent, les jeux de société, ça détruit plus les amitiés que ça ne les crée. Hein.
Ouais. Il y a quoi, un jeu violent aussi, là, où tu dois attraper un totem au milieu, là. Comment ça s'appelle?
Jungle Speed.
Ah, là, tu finis, t'as les entorses de doigts et tout ça.
Non, mais le pire, c'est quand tu dois faire deviner des trucs à tes potes, que tu t'es dit, je me suis mis avec mon pote.
Ah, le Time's Up.
Time's Up, ouais. Ah, et le mec, et là, ça détruit les amitiés.
Ouais, parce que t'es pas bon sur le mime.
Non, c'est l'autre qui est bête.
C'est l'autre qui est bête.
Ouais. Toujours la faute de l'autre. Ah, oui. Bon, revenons à nos affaires pour cette dernière heure, Steve. Direction les États-Unis dans un instant pour la Coupe du Monde de football, début des 16e de finale. Les matchs couperaient enfin aujourd'hui avec Afrique du Sud, Canada pour les Bleus. Ce sera mardi à 23h face à la Suède. Messieurs, vous allez aussi donner vos coups de cœur, vos coups de gueule sur cette phase de poule, ce que vous avez aimé. Sachez que Stephen, pour ceux qui n'ont pas l'image évidemment, a un maillot de la République démocratique du Congo.
Kinshasa,
magnifique maillot. Et qualification.
On va taper l'Angleterre en 16e.
Ça peut être la surprise. Et puis on évoque.
C'est le vrai ou c'est 20 euros sur les sites Non.
Pardon. Max, c'est tout le respect que t'as pour moi, vraiment. Pardon.
Et puis demain, tennis, Wimbledon débute, Yannick Sinner de retour. C'est aussi le cas d'Arthur Fils, numéro 1 français. Et évidemment, le comeback du siècle, Serena Williams. Ce sera mardi, le 32-16, 06-12, 424-424. Et juste avant d'aller à Boston, retrouver Valentin Germain, le Grand Prix MotoGP des Pays-Bas, c'est parti sous les yeux d'Eddy Artigot. Salut Eddy.
Salut Arnaud, salut Steve.
Salut Eddy.
Bonjour à toutes et à tous. Avec une énorme frayeur, hein, puisque le leader du championnat du monde, Marco Bezzecchi, a chuté à 235 km/h, a perdu l'avant de son Aprilia dans le virage 15. Il est toujours au sol. Il a fait quand même un signe que ça avait l'air d'aller. Il sera transporté dans les prochaines minutes au centre médical pour revenir sur la course. Et bien c'est Jorge Martin, l'ancien champion du monde, auteur de la pole position, qui est en tête devant Raoul Fernandez qui avait lui remporté hier la course sprint, et la troisième position pour Marc Marquez qui continue sa remontée dans ce championnat, lui qui n'a plus que 42 points de retard sur Marco Bezzecchi, donc qui ne sera plus leader ce soir du classement général. Une bonne nouvelle, c'est Fabio Quartararo qui est actuellement dans le top 10 à la 9e position à Senne, la cathédrale de la vitesse, un circuit très technique, très rapide, donc pour l'instant avantage à l'Aprilia de Jorge Martin. Arnaud devant Raoul Fernandez, la troisième position pour Marc Marquez, encore 21 tours à couvrir donc ici aux Pays-Bas.
Merci Eddy, à tout à l'heure. Comme promis,
les commissaires de piste sont venus aider Bezzecchi, ou parce que il y a 15 jours ils ont pris une tartine les commissaires de piste quand ils étaient venus aider Bezzecchi
et qui avait été suspendu.
Ils étaient là ah, pour l'aider à se relever quand même.
Il s'était excusé quand même, mais là c'est vrai que
il a perdu gros lui en 15 jours.
Là c'est plus fâcheux, c'est pas vraiment de sa faute cette lourde chute. Direction Boston, l'état du Massachusetts.
Celtics, baby.
Pour retrouver Valentin Jamin auprès des Bleus. Salut Valentin.
Salut Valentin.
Hello guys. Salut à tous.
Good morning.
Fais pas genre t'es bilingue Valentin. Alors que tu connais trois mots d'anglais.
T'as vu mon accent à 8h10 du matin en plus, ça t'impressionne pas?
Ça va, t'as pris un bon breakfast?
Franchement, pour tout vous dire, on n'a plus de café, donc là ça m'a mis en mode.
Comment ça,
c'est de ma faute.
Vous êtes à l'hôtel, vous n'avez plus de café?
Eh ben non, on est dans une location et je voulais acheter du café moulu, j'ai acheté du café en grain, donc la surprise a été
catastrophique. Mais t'es avec qui
avec Florent Germain, mais
t'es préposé au café, t'as été catastrophique.
Non, on alterne, tu sais, mais.
C'était ton tour, tu t'es raté, t'as été nul.
Ah oui, complètement. Ah, mais là, j'assume.
Pour 15 dollars, tu vas bien trouver un café horrible à côté.
Mais c'est ça le drame, c'est que j'ai acheté le paquet $14 en fait.
Bah, évidemment, bravo. Et tu vas la faire passer en note de frais quand même, celle-là, même si c'est pas le bon café.
Non, Stephen, tu nous connais, on fait pas ça. Non.
Revenons à l'équipe de France. Quel est l'état d'esprit des Bleus, Valentin? 9 points sur 9, victoire contre le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Nos Bleus qui joueront la Suède mardi à 23h. Comment ils sont, nos joueurs?
Confiant, évidemment, il y a beaucoup de confiance, beaucoup de satisfaction, le sentiment aussi d'être sur la bonne voie. Tu l'as dit, hein, le bilan comptable il est excellent, 3 victoires en 3 matchs. La seule fois que c'était arrivé avant pour nous, c'était en 98. Seul le Mexique et l'Argentine l'ont fait aussi cette année. La France en plus attaque bien, 10 buts, c'est la co-meilleure attaque de ce mondial, avec en plus le trio Mbappé, Olysée, Dembélé qui est impliqué à chaque fois. Donc la grande satisfaction aussi, messieurs, c'est que ce système avec 4 offensifs qui a été débattu, parfois décrié, il a été conservé et on estime dans le staff qu'il a été un succès. Donc tout va bien. Le point négatif quand même, et je sais que vous le relèverez, c'est la petite inquiétude derrière, où la France sans trop encaisser de but est quand même friable, notamment sur les côtés de la défense où le débat reste ouvert. Il y a parfois ce petit déséquilibre qui a été assumé et expliqué notamment par le milieu Aurélien Tchouaméni après le dernier match.
On sait qu'on a un pouvoir offensif extraordinaire, mais ce qu'on aime par-dessus tout, c'est le fait qu'il nous aide aussi à défendre. On arrive à être de plus en plus compact, même si on peut encore progresser sur ça. Mais je trouve qu'on a un bon équilibre. Et il va falloir qu'on continue à pousser, surtout avec jouer avec nos forces. Je pense qu'on a beaucoup l'envie de presser. Des fois, il faut qu'on comprenne un peu plus quand il y a des temps faibles et des temps forts. Mais voilà, on a beaucoup d'envie en tant qu'équipe. Personne ne triche, tout le monde fait le job et on est content.
Et puis il y a quelque chose qui est important aussi, c'est ce côté en mission, on va dire l'attitude de Kylian Mbappé qui est très impliqué sur et en dehors du terrain, la vie de groupe qui se passe vraiment très bien. Et puis on regarde devant à l'image aussi d'Ousmane Dembélé qui a répété quand même 6 fois face aux caméras, bon il était sûrement un petit peu agacé des critiques, on se concentre sur la suite, il n'y a pas à s'arrêter sur cette performance alors qu'il avait mis un triplé, donc on sent qu'ils sont vraiment focus et tournés vers la Suède déjà mardi.
Merci Valentin, tu restes avec nous. En entendant cela, Stephen,
oui.
Qui peut arrêter les Bleus? Parce qu'on est quand même assez irrésistible.
Oui, on est bon. On a fait une phase de poule qui est très très correcte. Après, c'est toujours compliqué par rapport aux gros adversaires de cette compétition-là d'évaluer les oppositions par match interposé. C'est-à-dire que tu vois, je sais pas, l'Argentine, l'Espagne jouer d'autres matchs et t'as du mal à transposer en disant ah bah si y a France-Espagne aujourd'hui, est-ce qu'on est meilleur que tu vois, tu sais pas comment cette équipe-là quand elle va jouer la France, comment elle va jouer. Si les individualités face à nous vont élever leur niveau de jeu ou pas, quelle formation ils vont aligner. Donc c'est difficile de transposer et de s'imaginer les oppositions futures contre nos adversaires. Maintenant, ce qu'a proposé la France, il y avait beaucoup de débats avant la compétition sur Didier Deschamps, ses 4 offensifs. À un moment donné, il va faire marche arrière, il va en enlever un pour mettre 3 milieux. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit parti comme ça. J'ai l'impression qu'il va aller au bout avec cette philosophie-là. Surtout que ça a bien fonctionné. Surtout que les 4 offensifs, je trouve, ont bien partagé le ballon, se sont bien entendus, que ce soit Barcola ou Doué, et les trois autres, Dembélé, Olise, Mbappé. Je trouve qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de connexions entre eux. Il y a l'envie aussi de partager les uns et les autres. Parce que les trois premiers matchs de Kylian Mbappé, j'ai envie de lui dire bravo. J'ai envie de lui dire bravo, que ce soit sur et hors terrain, son capitanat, ses conférences de presse, défendre Ousmane Dembélé, après sur le terrain, transposer les mots en axe, c'est-à-dire vouloir que Ousmane Dembélé soit bon, lui laisser passer des ballons, jouer pour lui, pour le remettre en confiance. Les Bleus, ils font une phase de poule qui est top, qui fait peur à tout le monde, parce qu'on dit ouais, notre partie de tableau elle est pas très bonne, on va jouer des bonnes équipes. Alors la Suède, on sait pas ce que ça vaut, même si ça a l'air un peu en dessous. Mais après t'as l'Allemagne, après t'as éventuellement le Pays-Bas, le Maroc. Mais les équipes qui sont dans notre partie de tableau, elles se font dessus. Les défenseurs, quand ils vont jouer la France, ils vont pas dormir de la nuit, parce qu'ils vont se taper les quatre meilleurs attaquants, les quatre meilleurs joueurs offensifs du monde. Donc voilà, moi il y a peu d'équipes peut-être sur le papier qui nous paraissent supérieures, ça reste des matchs de poule. Là, tu rentres dans une autre compétition, parce que l'envie d'attaquer, de mettre des buts en phase de poule, ça n'a pas les mêmes répercussions, parce que si tu fais un match nul après 13 de matchs pour te qualifier, match de la muerte, à la vie, à la mort, peut-être que tu vas être un peu plus frileux, moins te livrer aussi. On sait que dans le sport, dans le foot, pardon, c'est un sport où, même si t'es meilleur, tu peux passer à la trapinette en prenant un vieux but pourri à 1-0 et t'arrives pas à scorer. Et donc voilà, tout est dangereux. Après, on parle de, Valentin disait, oui, il y a des carences. Est-ce qu'il y a une équipe aujourd'hui dans la Coupe du Monde où il y a 11 joueurs qui font l'unanimité, où tout le monde est fort? Toutes les équipes aujourd'hui à la Coupe du Monde, elles ont des carences sur certains postes. Nous, c'est nos latéraux, si vous voulez. Ok, peut-être qu'ils sont pas au niveau individuel qu'on espère, mais moi je trouve que ce sera peut-être préjudiciable. On parle du milieu de terrain. Qu'est-ce que vous avez à reprocher sur les trois premiers matchs à Tchouaméni, Manu Koné, Adrien Rabiot? Moi, je les ai trouvés très bons. Le métier qu'ils font quand il y a quatre mecs de devant offensif, je les ai trouvés très bons. Tchouaméni, je le trouve très fort. Je suis pas sûr que ce soit une carence, notre milieu de terrain. Alors peut-être qu'il y a d'autres milieux de terrain qui sont meilleurs que nous, mais dans notre façon de jouer au football, je trouve que notre milieu de terrain, il est cohérent, il est bon, il est solide. Les mecs, Tchouaméni, l'abattage d'Aurélien Tchouaméni. Enfin, moi, je le trouve très, très fort, ce milieu de terrain.
Après, la question, c'est qu'ils sont trois, il y a que deux places.
Ah oui, bah après Deschamps fera des choix. Pour moi, Aurélien Tchouaméni, par rapport à ce qu'il en impose hors terrain, parce que c'est quand même le vice-capitaine de cette équipe-là, pour moi, il sortira pas. Et Adrien Rabiot, qui joue les deux premiers matchs et qui se repose sur le troisième, pour moi, on va repartir avec Tchouaméni-Rabiot.
Moi, ce qui m'inquiète plus, tu vois, la question qui peut arrêter les Bleus. Moi, j'ai toujours ce truc de la dernière fois qu'on a pris l'Espagne en grande compétition, on a pris une vraie rouste.
Ouais, moi, je joue pas comme ça. On n'était pas aussi bon.
Peut-être que eux étaient plus forts, mais moi, il y a ce truc où notre équipe qui est très offensive, tu vois, on parlait des deux milieux. Moi, les deux milieux, j'ai rien à leur reprocher. Par contre, c'est vrai que parfois, ils sont un peu seuls. Quand t'as pas tout le temps le repli défensif, qui est voulu aussi par moi sur le match, le dernier match contre la Norvège, on sentait qu'Ousmane Dembélé c'était voulu qu'il reste justement prêt pour les contre-attaques. En fait, on avait deux joueurs qui redescendaient un peu moins. Mais sur une équipe comme l'Espagne, qui est capable de garder le ballon très longtemps, peut-être même un peu l'Allemagne avant, qui est capable de garder la balle très longtemps, elle va forcément faire descendre ton bloc. Donc comme tu l'as dit, ça va pas du tout être les mêmes matchs. Et moi je dis voilà, quand même, faut rester très méfiant. Et le style de jeu adopté en poule ne sera peut-être pas non plus le même sur des matchs coup près à élimination direct, quoi.
Je pense qu'on va changer notre façon de jouer. Je suis pas sûr.
Tu peux pas garder. Je vois ce que tu veux dire, mais tu peux pas garder deux mecs devant pour jouer la contre-attaque sur une équipe comme l'Espagne, par exemple. Ça va pas être possible.
Moi, je pense que les joueurs vont surtout s'adapter, en fait. Ils vont s'adapter à leur adversaire. Contre la Norvège, t'as raison, tu peux te permettre des fois de moins te replier contre l'Irak. Mais quand tu vois l'attitude d'un Olise, d'un Mbappé, moi, je pense que s'il faut revenir au milieu de terrain dans le rond central en 3 secondes.
C'est trop important, ce sont des enjeux importants.
Et surtout qu'ils le font, mais du coup, on est plus sur exactement le même schéma et tu joues pas exactement de la même façon. Tu t'adaptes.
D'ailleurs, Valentin. Les interrogations. Ah,
Valentin, il s'est adapté sur le café, regarde. Et puis, il a acheté du moulu alors que c'était en grain.
Ah, j'ai plus de l'eau, super.
De l'eau chaude. Justement, les incertitudes sur la composition. Sur le programme du jour, il y a eu un entraînement hier, mais bon, on était le lendemain de match. Là, aujourd'hui, on rentre vraiment dans la préparation parce que ça va arriver très vite, ce 16e de finale.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, les Bleus voyagent aujourd'hui, donc deux jours avant la rencontre, voilà, pour des raisons un petit peu pratiques et de confort. Il y a un entraînement à huis clos à 17h heure française. Souvent, il y a des petites mises en place de la part du staff qui donnent beaucoup d'indications sur la composition probable. Donc, on aura des éléments après cet entraînement à huis clos. Après, les grandes tendances, c'est que on est évidemment le 4-2-3-1. La défense, on la connaît, avec Saliba qui va revenir dans le 11, Koundé à droite, Théo Hernandez. Alors moi, j'aurais quand même tendance à dire qu'il reste un petit doute, mais on a jusqu'à fait le staff des Bleus, on a quand même la sensation que Théo a une petite avance sur Lucas Digne. En revanche, ses performances ne lui permettent pas de s'asseoir comme un titulaire indiscutable. Le milieu, je pense que Koné va sortir aussi du 11 parce que vous l'avez dit, il y a des statuts que Tchouaméni qui est vice-capitaine et que Rabiot qui est là depuis longtemps sont installés. Mais franchement, vu les performances de Koné, on n'est pas inquiet si jamais il y en a qui se blesse par ailleurs. Et puis bon, bah devant, on connaît.
C'est Barcola ou Doué quoi.
Ouais, c'est ça, c'est le trio, j'allais dire Dembélé, Olise, Mbappé, c'est assez clair. Et à gauche, Barcola ou Doué. Faut voir peut-être que le profil de l'adversaire aussi peut jouer. Exactement, parce que Didier Deschamps n'hésite pas parce que à battre ses cartes.
Si la Suède décide de jouer bas, est-ce que la profondeur de Barcola est pas plus intéressante que Doué, qui aime bien avoir le ballon dans les pieds pour éliminer sur du 1 contre 1?
Moi, je pense que Doué, ce qui intéresse aussi, c'est qu'il a un énorme volume de jeu et qu'il fait quand même énormément de replis défensifs. Donc moi, j'ai quand même l'impression que sur les débuts de match, t'as Doué dans sa capacité à conserver le ballon et à faire beaucoup d'efforts pendant très longtemps défensivement, et après tu fais rentrer Barcola en finisseur avec les espaces qui se libèrent. Moi, je pense qu'ils vont rester là-dessus, en tout cas.
Même si Doué a marqué dans le temps additionnel, ça peut aussi le libérer un peu, parce qu'on l'a vu peut-être un peu frustré, un peu perdre le ballon contre la Norvège.
Il met un but, mais enfin, ce but-là, je ne vais pas dire qu'il est anecdotique, mais c'est vrai que sur l'intégralité du match, Désiré Doué, ça n'a pas été le joueur offensif le plus rayonnant, parce qu'il n'a pas non plus, il le jeu penché à droite.
Enfin, c'est comme Ousmane Dembélé, c'est la quatrième option, en fait.
Voilà, devant. Ousmane Dembélé, le jeu penché énormément à droite pour Ousmane sur la première mi-temps, et que de l'autre côté, on n'y allait pas beaucoup, qu'on n'a pas vu Doué, mais c'est vrai qu'il a un volume de jeu, il a du cardio, il a du coffre, il fait beaucoup de choses. Faudra voir ce que Didier Deschamps a envie sur ce.
Après, il a un peu le même profil, tu vois, Steve. C'est un garçon qui touche beaucoup le ballon, alors que Barcola, il peut plus faire
Exactement. Il n'a pas besoin de beaucoup de ballons dans les pieds, Barcola. Tu l'envoies, comme dit Vincent Moscato, attrape à courir. Tu l'envoies le ballon devant, il court après. Et puis après,
pour moi, Barcola, quand tu le fais rentrer dans les dernières minutes, quand les autres commencent à être un peu cuits, il gagne encore son niveau. Pour moi, augmente encore. Je trouve que tu tires le meilleur des deux en faisant commencer Doué et en faisant finir Barcola, quoi.
Écoute, c'est choix de riche, non?
Oui.
Donc, oui. Entraînement 17h.
Didier Deschamps est rentré, Valentin.
Ouais, c'est ça. Il est arrivé hier. D'ailleurs, il a assuré la séance qui était à 23h française. C'était une séance assez légère. Les titulaires ont plutôt trottiné et récupéré. Les titulaires du match face à la Norvège et puis les remplaçants ont fait une petite opposition entre eux. Pas de bobo, rien à signaler. Il a beaucoup discuté avec, par exemple, Maxence Lacroix, Marnès Akliouche, Ryan Cherki. Donc, il était tout de suite très impliqué. Peut-être aussi que, évidemment, il avait besoin de vite se replonger dans le mondial après le décès de sa maman, mais il est bien là et il est de retour auprès des Bleus pour le plus grand bonheur de tout le monde.
Séance légère au foot, on lancera le débat un jour. Est-ce qu'il y a vraiment autre chose que des séances légères à l'entraînement au foot? On en parlera si Fabien.
Bah, ça dépend.
Par rapport à l'escrime, tu penses que c'est moins intense?
Ça dépend. Ça dépend à quelle période. Là, t'es en plein match. C'est un match dans deux jours. Tu vas pas t'envoyer du 30-30. En bowling.
J'ai déjà reçu des plannings de Ligue 1 d'entraînement. On en parlera un jour dans le Stephen Brunch.
Non. Après, on sait que les blocs les plus compliqués, notamment en Ligue 1, c'est quand tu vas à la reprise.
Tu touches pas un ballon.
Tu fais du cardio. Après, c'est vrai qu'en saison, surtout quand tu joues la Champions League, les séances, elles ne sont pas non plus. Je pense que je pourrais en faire une des séances.
Alors, c'est de la récup, hein, c'est essentiellement de la récup.
Techniquement, je ne serais pas très bon, mais je pense qu'au niveau cardio, je peux les suivre sur une séance dans une semaine.
Merci, Valentin.
Un tennis ballon, un taureau.
On se retrouve au milieu, par contre. Mais...
Voilà. Et puis coup franc à la fin.
Voilà, 2-3 frappes, t'envoies 2-3 sacoches pour entraîner le gardien, et t'es content.
Merci beaucoup, Valentin.
Avec grand plaisir.
On est en train de faire passer les joueurs de foot de Liga quand même comme des.
Sympa. Merci Valentin. Un point très rapide sur le Grand Prix MotoGP des Pays-Bas avec Eddy Hartigaud.
Nous sommes à la mi-course, encore 13 tours à courir pour l'instant. Jorge Martin est toujours en tête avec 3 dixièmes d'avance sur Raúl Fernández qui a lui une seconde d'avance sur son coéquipier Ayogura. On rappellera la chute terrible de Marco Bezzecchi, le leader du championnat du monde, mais ça va mieux. Et la 9e position pour le seul Français engagé aujourd'hui à Seine, Fabio Quartararo.
Merci Eddy, à tout de suite. Le Stephen Brunch se poursuit jusqu'à 15h. Vous allez donner vos top et flop sur cette phase de poule, messieurs, et on parlera tennis puisque demain démarre le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon sur herbe, avec beaucoup d'interrogations, que ce soit Yannick Sinner, Arthur Fils notamment, qui sera de retour, qui n'a plus joué depuis début mai, et même le grand retour de Tony Truant de Serena Williams.
Bien, parce que Eric Salio sera avec nous en direct de Wimbledon, il vient d'arriver.
Exactement, il a pris le train ce matin et il sera avec nous du côté de l'Angleterre, le Stephen Brunch, jusqu'à 15h sur RMC.
RMC, 13h-15h, Stephen Brunch.
Arnaud Valadon, Stephen Brun.
C'est le Stephen Brun sur RMC, il est 14h25, Maxime Potti, Arnaud Valadon sont là, on a ouvert la page football et Coupe du Monde, Arnaud.
Absolument. J'étais en train de me dire demi-heure.
Pourquoi tu rigoles, t'as un grand souvenir que
Dans demi-heure, c'est quoi?
Dans demi-heure, c'est l'intégral sport.
C'est les vacances, non?
Ah oui, c'est les vacances aussi, oui.
C'est surtout ça, oui, il y aura l'intégral sport qui arrive, mais je pensais aux vacances parce que c'est la dernière du Stephen Brown.
Exactement. La dernière 2025-2026, on a fait une belle saison.
Oui, franchement.
On a fait une belle saison.
On a bien brunché.
Un beau back-to-back. Voilà.
Il faut faire 3 de suite, hein, le three-peat.
Three-peat, écoute, normalement c'est prévu au programme le three-peat. On verra, on va passer dans le burlingue des patrons pour savoir si on est prolongé.
Après la Coupe du Monde aux États-Unis, d'ailleurs, on en parle encore de cette Coupe du Monde aux États-Unis, RMC Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA. Vous allez dresser votre bilan, messieurs, de cette phase de groupe, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Et puis, dans un quart d'heure, direction Londres et le tournoi de Wimbledon, où on va retrouver notre envoyé spécial Eric Salio pour nous parler de Serena Williams, de Yannick Sinner qui sera en lice demain, tradition anglaise, c'est toujours le tenant du titre qui ouvre le bal du côté de Wimbledon. Ça y est, on a le tableau des 16e de finale avec, évidemment, on en a parlé, la France jouera la Suède et potentiellement, eh bien, France-Allemagne en 8e de finale. Mais messieurs, cette phase de poule qui a duré un petit moment, on avait commencé le 11 juin, on est le 18, presque 3 semaines, allez, 2 semaines et demie. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé, Stephen?
Bah, écoute, déjà, avant de te dire ce que j'ai aimé, je voulais faire un petit aparté parce que comme avant chaque grande compétition, que ça soit les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde ou ce genre de choses-là, il y a toujours des polémiques avant que ça démarre. Et les polémiques, c'était le prix des places, c'est trop cher, il y aura pas de monde. Moi, le nombre de matchs que j'ai regardé où j'ai vu des stades pleins, j'ai l'impression que c'est quand même un succès plutôt populaire cette Coupe du Monde et que tous les stades qui sont magnifiques et merveilleux sont souvent remplis. Voilà, c'était petit aparté. Arnaud, après, pour mon vrai top sportif, je trouve que les stars du football mondial répondent présent. Elles sont au rendez-vous. Quand je dis les stars, je parle forcément aussi des attaquants, puisque Messi, Vinicius, Mbappé, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, ces mecs-là qu'on l'attendait parce qu'ils dominent le foot européen à leur position dans leur club respectif, ils mettent des buts en sélection. Ils mettent des buts. Alors on me dit oui, mais parfois l'adversité, je m'en fous. C'est une coupe du monde. Ces mecs-là, c'est les tauliers de leur équipe. En pointe ou en attaque, et ces mecs-là, ils sont bons, ils mettent des buts, et mention particulière à Messi parce que c'est quand même dingue. Lionel Messi, ça fait 39 balais, il joue en MLS depuis 3 ans, on pense qu'il est cramé, qu'il est en pré-retraite là-bas, et il arrive, il débarque dans une équipe qui est championne du monde en titre et qui a peut-être touché le Graal il y a 4 ans contre nous en finale, on est un champion du monde, et on se dit peut-être que ça va faire un flop, Lionel Messi, peut-être que cette équipe-là, elle a peut-être plus envie de jouer que pour lui, alors qu'ils sont déjà champions du monde. Et en fait, c'est pareil. Il a des soldats autour de lui. Et Lionel Messi, il a mis 6 buts. 6 buts. Peu importe les adversaires, je n'en ai rien à cirer. Il a mis 6 buts dans une phase finale de Coupe du Monde à 39 balais, alors que ça fait 3 ans qu'il joue en MLS. Ce mec-là, il a une main à la place du pied. Tout est merveilleux quand il a le ballon. Alors, il joue à son rythme. Oui, il joue à son rythme, si vous voulez. Il marche. Je m'en fous. Lionel Messi, 39 balais avec l'Argentine. Ce mec-là est une légende. Il a encore mis 6 buts. Et même s'il en a mis 0 sur le truc, il aura fait une Coupe du Monde à 6 buts. Et je trouve ça fantastique. Et c'est mon top, Lionel Messi. Bravo, tu es un grand, tu es un très grand. Et je te félicite pour tes 3 premiers matchs de poule.
Est-ce que tu trouves que... Alors, je ne sais pas si ça a appelé clore le débat, mais... On a toujours opposé Messi à Cristiano Ronaldo, mais quand on voit les deux fins de carrière, alors Cristiano est encore là, mais il y a beaucoup plus de critiques, sa place
est beaucoup plus contestée. Il m'a doublé contre l'Ouzbékistan, il a dit « I'm back ».
Oui,
« I'm back ». Quand tu dis « I'm back », ça veut dire qu'à un moment donné, t'étais parti, Cristiano. Parce que un retour, ça implique aussi un départ.
Est-ce que tu trouves que là, Messi, il marque clairement des points, il a déjà un titre de champion du monde, et la façon dont ça se termine, sa carrière.
En fait, le problème, c'est que la polémique Lionel Messi, elle est... Il y en a très peu en fait parce qu'il joue dans un pays, il joue pour un pays où c'est un dieu vivant, Lionel Messi. Et que, alors même s'il y a eu il y a quelques années des débats où ça se passait pas très bien, Messi la sélection,
notamment
en 2018, il a failli arrêter. C'était pas du tout la légende qui peut être actuellement. Mais il y a pas eu de Messi quand il a dit moi je veux faire cette Coupe du Monde là en 2026. On a dit ah ouais c'est curieux quand même, t'as 39 ans. Bref, mais ça s'est vite éteint. Cristiano Ronaldo, ça fait déjà un paquet de compétitions avec le Portugal. mondiale où il y a beaucoup de gens, de voix qui s'élèvent, et même dans son propre pays, pour dire arrête mec, arrête, tu fais trop de mal, tu fais trop de mal à ta sélection, arrête, c'est pas comme s'il y avait personne derrière, c'est pas comme si c'était un no man's land en attaque le Portugal et Messi. Il y a jamais vraiment eu de arrête s'il te plaît, arrête, laisse la place aux autres. Non, parce qu'ils font un bloc les Argentins, et que il a des tontons, les De Paul, les McAllister, les Fernandez, les Lautaro Martinez qui sont là pour lui, qui jouent pour lui, et il y a aucune polémique autour de Messi. Donc bon, le débat il est clos sur la fin de carrière. Il y en a un qui réussit sa fin de carrière, un autre qui est là, c'est Papi, c'est, il y a Tati Daniel, et il y a Papi Cristiano, voilà.
Ton top, Maxime. Il y a Papi Poti aussi.
Moi, mon top, déjà, j'ai galéré à faire un top.
Tu fais partie de ces mecs qui ont détesté ces phases de poule.
Non, bah, je l'expliquerai après pourquoi dans mon flop. Mais, du coup, moi, dans mon top, j'ai mis, pour l'idée, c'est les équipes sud-américaines. En fait, déjà l'ambiance.
Ah, t'as un gringos, toi.
Déjà l'ambiance dans les stades, parce que c'est une Coupe du Monde sur le continent américain, donc je trouve que les équipes sud-américaines amènent une belle ambiance dans le stade. Et même au niveau du jeu, en fait, là où je suis habitué à avoir les matchs du plus haut niveau possible toute l'année avec la Ligue des Champions, là en fait une Coupe du Monde c'est différent, c'est un peu moins solide, c'est un peu moins fort, et je trouve que les équipes sud-américaines, moi j'ai l'impression de voir un petit peu des matchs de Libertadores, tu vois, genre il y a un peu plus de fragilité, et j'arrive à prendre un peu de plaisir, notamment j'ai pris beaucoup de plaisir devant l'Équateur, j'aime bien la Colombie aussi, l'Argentine c'est très fort, ce Brésil là moi m'intéresse, il est fragile mais il m'intéresse, donc voilà, donc j'ai choisi les équipes sud-américaines qui de par leur football, je dirais engagé, mais aussi un peu fragile, et qui parfois joue sans en réfléchissant un peu moins, en prenant plus de risques. Voilà, moi j'ai bien aimé, et c'est vraiment le petit top que j'ai trouvé, quoi.
Qu'on accueille Nico, qui a composé le 32-16 pour intervenir dans le Stephen Brunch.
Salut Nico.
Ouais, salut tout le monde.
Comment vas-tu Nico? T'appelles?
Eh ben, écoute, ça va bien. J'appelle de Bretagne, où la température baisse un peu.
Vous avez été envahi par les gens qui cherchaient la fraîcheur en Bretagne.
On revient un petit peu. Ouais, les Parisiens vont nous envahir cet été. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Mais bon, c'est le jeu.
Bah alors Nico, c'est quoi ton top sur cette phase de poule du monde?
Moi, je vais vous faire un pied de nez, en fait. Quoi. C'est un top et un flop médiatique. Ah. C'est parce que au tout début de la Coupe du Monde, Dembélé n'était pas là, était un peu absent ou travaillait dans l'ombre. Mais honnêtement, ça fait 2 ans qu'il n'a pas eu de vacances, le gars, quoi. Il a eu la Coupe du Monde des clubs l'année dernière, et il a enchaîné et tout. Et il fallait qu'il se remette en route après la finale de Ligue des Champions sur la Coupe du Monde. Et voilà, et maintenant, on a nos 4 offensifs là, qui sont là, qui sont réglés, qui sont calés. Donc, mon flop est plutôt médiatique parce qu'on a descendu Dembélé dès le départ au bout de 2 matchs.
Nico, je vais me permettre de t'interrompre parce que tu parles de ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent ceux qui voulaient mettre Dembélé sur le banc, je sais pas quoi, il vous a fermé votre clapet, tout ça. Mais en fait, le jugement con, parce que moi, je vais mettre dedans, je vais pas me désolidariser, pardon, de mes confrères. C'est pas globalement sur le Dembélé 2026. C'est ce qu'on avait vu depuis le début de Dembélé avec l'équipe de France. Parce que t'es quand même d'accord pour dire que le Ousmane Dembélé en équipe de France de 2018, par rapport au contraste qu'il y avait Dembélé équipe de France et Dembélé club, il y avait quand même un énorme contraste.
Non, je suis d'accord. Il a marqué, c'est ça, 8 buts avant la Coupe du Monde. Oui. Il a. Donc, oui, non, je suis d'accord. Les stats sont pas ouf, mais tout le travail qu'il fait et tirer et tout, et imaginez les défenses adverses. T'as Dembélé là-bas, tu peux pas le laisser comme ça. T'as Mbappé, t'as Olise, t'as Doué ou Barcola. C'est compliqué pour la défense adverse, en fait, quoi. Et du coup, ça joue en 4 heures. C'est magique, quoi.
Non, mais t'as raison, mais on est tout content de voir Dembélé, le ballon d'or, proposer ce niveau de jeu-là. Et en fait, c'était pas qu'on voulait. Moi, j'ai jamais vraiment critiqué Dembélé, même si j'en attendais plus. C'est qu'en fait, de voir ce garçon-là sous le maillot du Paris Saint-Germain être aussi brillant et dominant, et quand il arrivait et qu'il mettait la tunique de l'équipe de France,
c'était pas trop le ballon d'or.
Voilà, exactement. C'était un mec qui était un peu sacrifié, parce que c'était un positionnement.
On se posait des questions sur les places aussi, tu vois. Moi, dans mon rêve, entre guillemets, je me disais, Dembélé, faut le mettre en attaque. Du coup, est-ce qu'on mettrait pas Mbappé à gauche, Olise à droite? Enfin, tu vois, il y avait une sorte de place par rapport à Dembélé aussi. C'était ça le problème.
Dembélé est un mec qui est complètement, je suis breton, hein, et il a explosé à Rennes, Dembélé. Dembélé est super humble, hein, Et comment tu fais en face d'un mec comme Mbappé? C'est compliqué.
Alors qu'il soit humble, qu'il soit gentil, qu'il est à un moment donné, Ousmane Dembélé, t'es double champion d'Europe, t'es ballon d'or, c'est-à-dire que t'as été le meilleur joueur du monde sur une saison. Peu importe ton comportement ou t'as envie, peut-être. Ou sur 6 mois si tu veux, mais bon, globalement c'était sur un an. T'arrives en équipe de France, tu peux pas te permettre d'avoir des prestations qui sont pas en adéquation avec ton nouveau statut. Lui aussi, il doit se piquer un peu les fesses pour dire attends Ousmane, t'es ballon d'or, tu peux pas être effacé comme t'es effacé comme ça en équipe de France.
Mais t'es ballon d'or et tu veux que 15 jours après la finale de Ligue des Champions tu sois au top. T'as besoin d'une soupape de décompression quand même. Quand t'es sportif de haut niveau, t'as besoin de déconnecter un petit peu de certaines choses et de te remettre complètement avec l'équipe de France, et chose qu'il est en train de faire. Et ça va monter en puissance encore plus, que ce soit Dembélé, que ce soit Mbappé, que ce soit Olise, Doué, tout ça. Ils vont tous monter en régime. Deschamps, il est pas con, hein. Il connaît le business, donc ça va partir, quoi.
Écoute, et puis finalement, j'ai l'impression que toutes ces critiques médiatiques auprès de Ousmane Dembélé, ça l'a un peu piqué aussi. Oui. Voilà, il n'était pas content, il a mis triplé.
Vous avez vu le discours qu'il a eu après le match après
Ah oui, il faisait la gueule, Ousmane. Et puis ce côté ironique de dire bah finalement match j'ai mis un triplé, mais il est pas très bon. J'ai préféré les deux premiers matchs contre l'Irak et contre le Sénégal.
C'était un petit clin d'œil pour vous.
Bien sûr. Pour nous, je sais pas pour nous, mais pour oui.
Mais moi je trouve ça magique, moi, qu'il ait la décence de faire ce genre de discours. Moi je trouve ça magique, et donc mon flop, il est médiatique pour Dembélé au départ, où tout le monde le défendait.
Ton flop, c'est RMC, quoi. C'est
Dembélé
ça.
pour ta réponse médiatique aussi qu'il donne là hier soir, quoi.
Bon, vous n'avez pas donné vos flops. Nico a donné le sien.
Ouais, mon flop, c'est marrant parce que Maxime Petit a kiffé les équipes d'Amérique du Sud. Moi, mon flop, c'est l'Uruguay.
Forcément. La seule éliminée d'Amérique du Sud.
La seule éliminée, et puis Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, il y a quand même un décalage énorme par rapport à ce qu'il a pu gagner dans le football, et la fascination qu'ont les autres techniciens par rapport à Marcelo Bielsa. On va parvenir les Pochettino, les Pep Guardiola qui ont eu comme modèle et qui disent que Marcelo Bielsa est peut-être le meilleur entraîneur du monde. Je trouve ça épatant. Je suis parfois estomaqué par la différence qu'il y a entre ce qu'il propose en termes de jeu et les résultats qu'il y a au bout. En fait, j'ai l'impression que c'est Raël. En fait, il est chef d'une secte. Il emmène des gens avec lui par son aura. C'est sûrement un personnage exceptionnel. Mais aujourd'hui, Marcelo Bielsa, c'est souvent
ça se termine mal.
À Marseille, c'est mal terminé. À Lille, on n'en parle pas. La Lazio, il a signé un contrat, il se barre avant d'arriver. Là, il n'y a plus un joueur qui était avec lui en Uruguay. J'ai l'impression qu'il y a peut-être 15-20 ans, ça pouvait fonctionner. Sa vision du football, c'est un coach qui a fait progresser des joueurs, et qu'aujourd'hui, ça ne marche plus avec les joueurs actuels, et que c'est terminé, en fait. Marcelo Bielsa, l'Uruguay, c'est un fiasco complet. Il a fait des choix catastrophiques, notamment ce gardien de but, et l'histoire du personnage un peu théoricien, philosophe du football.
Il a perdu le vestiaire. Hein.
Voilà, qui vient te faire des grands speeches sur sa vision du football. C'est magnifique à écouter, mais c'est plus ça aujourd'hui, et ça ne fonctionne plus. Marcelo Bielsa, c'est quelque chose qu'il a été idolâtré, et j'ai toujours du mal à mettre en corrélation ce qu'il a pu produire dans le football et sur le palmarès par rapport à tous ces admirateurs qu'il a. Je trouve ça fou, en fait, la fascination qu'ont les gens pour Marcelo Bielsa. Alors, je suis pas spécialiste de football comme Pep Guardiola, tout ça, il a sûrement inspiré des trucs, mais je suis toujours surpris par la vision qu'ont les gens de Marcelo Bielsa, alors que final, alors ça a très bien débuté sa carrière d'entraîneur, mais là ça se termine très mal, en fait. Donc mon flop, c'est l'Uruguay et Marcelo Bielsa.
Et ton flop, Maxime?
Mon flop à moi, c'est que il y a deux semaines on parlait de pourquoi on n'arrivait pas à se mettre dans le mondial, et j'avais oublié de dire que l'une des raisons, c'est qu'avant j'aimais bien la phase de préparation où t'avais un mois où tu voyais les équipes qui allaient faire des stages à Tignes, qui se préparaient, les matchs de préparation, ça te faisait monter un peu en pression sur la compétition. Mais en fait maintenant j'ai trouvé pour les grosses équipes, les matchs de préparation, c'est les matchs de poule. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu sur cette Coupe du Monde. Je trouve que les équipes sont pas toutes au point, elles sont pas toutes parfaites. Il y a des petites erreurs, machin, mais ça se prépare tranquillement. Et au final, moi, pour l'instant, les matchs de poule de cette Coupe du Monde, je les vis. vit comme des matchs de préparation. Et je trouve ça dommage, ça enlève le caractère sacré du match de Coupe du Monde. Ça.
Merci Nico.
Il a quand même pris son pied sur quelques matchs de préparation quand même.
Oui, tu vois, le France-Norvège, je me suis ennuyé au plus haut point. Quoi. Ah,
merci Nico, 32-16. Allez, mais Eric Salio nous attend. Il est très pressé. Et nous aussi, c'est le Stephen Brun. C'est les dernières 20 minutes du Stephen Brun de la saison. A tout de suite, on parle tennis sur RMC.
RMC, 13h-15h, Stephen Brunch.
Arnaud Valadon, Stephen Brun.
14h41 sur RMC, c'est la dernière période du Stephen Brunch de la saison avec Maxime Potti, avec Arnaud Valadon, et puis c'est l'heure de partir en Angleterre parce que c'est tea time à Wimbledon.
C'est le super tie break du 5ème set. Eric Salio nous rejoint dans le Stephen Brunch depuis Wimbledon, il vient d'arriver.
Salut Eric.
Salut, good afternoon.
Comment vas-tu Eric, t'es bien installé? T'as fait un bon voyage?
J'ai une petite cabine là, j'ai un petit souci de connexion, mais on va régler ça. Et j'ai une vue splendide sur le gazon, totalement immaculé. C'est magnifique, il n'y a pas de filet, il travaille dessus.
Oui.
Je ne sais pas s'il a été foulé lors des entraînements, il faudrait que je vérifie. Le 1, oui, mais le central, je ne suis pas sûr parce que
le gazon est toujours magnifique en début de, tournoi. Et puis après, il est un peu usé le gazon au niveau de la ligne de fond.
Ah oui, bah tu décales même un petit peu aussi. Voilà,
il faudrait voir le comparatif d'usure il y a 25 ans. Je pense qu'il y avait beaucoup d'usure au niveau du filet, il y avait beaucoup de volets. Aujourd'hui, c'est un peu plus l'usure de fond de court, hein, Eric.
Oh bah oui, non, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Bah, à l'époque, c'était... Bah, en fait, la bascule, c'est 2002. Tu te souviens de cette finale Yewit-Nalbandian où ils étaient juste venus au filet pour se serrer la main?
Exactement.
Là, voilà. Ils ont changé le gazon à cette époque-là. Et depuis, bah, c'est une bataille de fond de course. C'est des matchs qui durent 4 heures, 5 heures. D'ailleurs, ils ont revu la règle, hein, puisque sinon, ils n'auraient jamais pu aller au bout de leur programme. Il y avait Kevin Anderson.
Kevin Anderson, ouais.
C'était le joueur de camp. Kevin Anderson qui a fait beaucoup de mal au tournoi parce qu'il a fait des matchs insensés. Et donc, maintenant, super time break au 5e set. Alors que la tradition, c'était qu'on allait au bout de la nuit. Quoi. Ouais. 18-16, 20-18, c'est génial. 70-68 aussi, bien
exactement.
Sûr, avec Nico Mahut.
Alors c'est une édition qui promet plein de surprises. Déjà avant que les premiers échanges ne soient sur le gazon londonien, Serena Williams est de retour, Stephen, 4 ans après son dernier match. La joueuse aux 23 grands chelems, elle fait son comeback à 44 ans. Elle sera opposée mardi à l'Australienne Maya Joint. Qu'est-ce que ce retour t'inspire?
Bah, écoute, je suis curieux. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Bien sûr, Serena est un monument, pas que du tennis, c'est un monument du sport mondial. Donc, moi,
attention, on attend Carolina Mukova.
Carolina Mukova qui va rentrer.
Elle est attendue.
Mais
je vais leur demander de baisser le son là.
Pas grave, Eric. Mais écoute, je pense que c'est un coup magnifique pour l'édition de Wimbledon, que ce soit en marketing, en termes de médias, ça va tout exploser. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le tennis féminin? Je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui des filles comme Sabalenka, qui forcément en conférence de presse disent toute leur admiration et c'est bien, mais est-ce que c'est pas justement d'un mauvais message, dire bah, Sabalenka, Świątek, Coco Gauff, Naomi Osaka, vous n'avez pas réussi à atteindre justement et emmener le tennis féminin à un niveau où Serena Williams l'a emmené en termes médiatiques. Elle, je pense que c'est un mauvais message qu'on envoie à elle, parce que c'est elle qui ont succédé à Serena Williams. Maintenant, moi, je suis curieux de voir si Serena passe 3-4 tours à 44 ans, alors qu'elle n'a pas joué depuis 4 ans, est-ce que c'est un bon message aussi pour le niveau du tennis féminin? Je suis pas sûr aussi, donc j'ai très envie de voir ça. C'est une très très belle attraction. Maintenant, si ça dure un peu plus longtemps que prévu, il faudra se poser pas mal de questions sur le niveau du tennis féminin actuel. Parce que moi, je vois bien, hein, à 44 ans, une fille qui n'a pas joué depuis 4 ans et qui gagne 3-4 matchs, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais laisser Eric nous en dire un peu plus, mais moi je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que surtout que le tennis féminin va mal, très mal.
Après, on se dit, Eric, que Serena Williams, elle revient pas pour rien, elle revient pas juste comme ça pour faire un match, hein.
Non, alors l'une des raisons qu'elle avance,
jouer devant ses enfants,
l'entendre, hein.
Oui.
Voilà, c'est qu'elle voulait que ses enfants la voient jouer. Et donc ils ont de la chance puisqu'on a la programmation de mardi. Évidemment, ce sera le center court
en
troisième rotation. Normal. Donc ça, c'est l'explication avancée. Peut-être qu'elle s'ennuyait chez elle. Et puis, il y a eu aussi un autre déclic, c'est qu'elle a perdu beaucoup de kilos grâce à un
les piqûres, là.
Miracle, on va l'appeler comme ça. Et puis surtout, je pense qu'elle a très très bien préparé son affaire en secret, avec des entraînements. Elle est très discrète là-dessus, elle ne va rien dire, mais on sait qu'elle a embauché un sparring partner au mois de mai en Floride, et le mec, il a dû signer un petit bout de papier en disant surtout tu dis rien. Elle est affûtée. Et la première, le premier objectif, c'était de voir comment aller en double. Donc, c'était au Queens. Alors, malheureusement, elle a joué qu'un match puisque la pauvre Canadienne Mboko s'est blessée. Donc, il n'y a pas eu de deuxième tour. Ensuite, elle a joué à Berlin avec Caroline Mukova, justement, qu'on attend. Mais entre temps, elle s'entraînait. Elle est suivie par une énorme équipe avec deux coachs, avec une physio, son ancien agent aussi. Donc elle a reconstruit une petite équipe assez nombreuse. Donc elle a, à mon avis, très très bien préparé son affaire. Maintenant, elle a 44 ans. Mais... Et la grande inconnue, c'est comment elle va se déplacer sur le gazon si le match dure plus de deux heures. C'est la vraie inconnue, parce qu'on l'a vu en double. Elle frappe encore très bien au service. Oui, oui. Sa voisine est 180. Mais
elle va jouer dans la même filière qu'elle a joué toute sa vie, en 3-4 ou de raquettes, Eric.
Ce qui est bien sur gazon.
Oui, mais les conditions sont plus ambiantes, Stephen. Oui, oui. La petite Maya Joint, même si elle ne gagne plus un match depuis 6 mois, c'est une fille qui renvoie bien la balle, hein, qui est très dynamique, qui peut être impressionnée par le décorum mardi après-midi, ça c'est clair.
Le truc, c'est que moi, que Serena Williams, elle veuille revenir, elle fait ce qu'elle veut et que ça ne l'arrange pas. Très bien, que ça l'éclate et tout. Mais là, la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le tennis féminin? En fait, je vois pas à quel moment c'est un point positif, parce que tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ça fait que Laura, elle tournait vers elle n'est pas tournée vers la nouvelle génération. Donc en fait, la nouvelle génération qui essaie de se mettre en avant, en fait, tu la mets toujours dans l'ombre. Ça fait que, comme tu dis, en fait, si elle gagne plusieurs matchs, en fait, c'est quand même assez choquant au niveau sportif de pouvoir se dire, même si c'est une grande championne, elle a arrêté pendant 4 ans, elle revient à 44 ans et elle me tape alors que je m'entraîne.
Moi, j'espère que la petite Joint, ou même ses adversaires, après, si elles ont qu'une envie, c'est de taper Serena pour dire, écoute, ma grande, écoute, le tennis, t'as été une des plus grandes championnes, 23 grands chelems exceptionnels, mais c'est fini, c'est plus pour toi, en fait. J'ai envie qu'elles envoient ce message-là, les adversaires de Serena.
Sinon, c'est pas.
Si tu te retrouves en face de Federer, tu auras envie de le taper, vraiment?
Enfin, je suis pas 50e mondial non plus.
Imagine un peu, mets-toi à la place de Joint.
Donc John, tu vas dire, tiens, Serena, je t'offre le match parce que c'est super ton retour.
Non, je t'offre pas le match, mais est-ce qu'elle aura vraiment envie de la taper? Je sais pas.
Ah, mais franchement, à sa place, je remets en question beaucoup de choses. Hein. Putain.
Là, si jamais je vais voir mon père, là, qui a bientôt 80 ans, qui a été joueur de basket professionnel, et qui me dit, viens, enfin, un contre un, je me fais taper par mon daron, je te dis que je remets beaucoup de choses en question, hein.
J'espère que Jock ne va pas fumer la moquette.
Ah, tu l'as voulu, celle-là.
Un mot très rapide, Yannick Sinner, la tradition, demain, le retour après, il n'a pas joué un match sur herbe.
Non.
Yannick Sinner, Matt Wielander a dit que c'était pas le favori, il voyait plus Djokovic.
Ouais, Matt, il aime bien ce genre de déclaration là. Maintenant, Sinner, il a une énorme pression, c'est qu'il a zéro grand chelem. Zéro grand chelem depuis le début de la saison, Yannick Sinner. Pour un garçon qui a autant dominé le début de saison, le tennis mondial, se retrouver avant Wimbledon en n'ayant pas gagné un grand chelem, alors que peut-être il avait des rêves de grand chelem calendaire et de gagner les quatre, ça lui met une énorme pression à voir comment il revient aussi de son coup de mou. Alors c'était pas une blessure, c'était juste un coup de bambou, donc peut-être que physiquement tout va bien pour lui. Après, dire que Djokovic il est favori devant Yannick Sinner, Mats Wielander, je l'aime beaucoup. Parfois, il y a des drôles de délires, hein, quand même. Eric, non?
Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est l'immense favori. Mais alors là, en termes de météo, là, je vous avoue que.
Il fait chaud encore?
Ça fait du bien. Hein.
Ah, il fait frais?
Non, là, on a une belle fraîcheur londonienne. C'est parfait.
C'est parfait pour Yannick Sinner.
C'est un passage de Paris, quoi. Donc, il doit être rassuré de ce côté-là. La canicule, c'était plutôt la semaine dernière.
Merci beaucoup, messieurs. Merci, Eric.
Attends, Eric, il n'a pas fini sa phrase. Tu le dégages comme ça?
Mais c'est le timing. On est pris par le timing, là.
Ah, je suis désolé, Eric.
C'est la fin.
Je suis désolé, Eric.
On te retrouvera, Eric, évidemment.
Bon, belle fin de saison.
Bon tournoi, Eric. En tout cas, je te remercie pour cette saison, parce qu'à chaque fois que tu es venu dans l'émission, tu as été magnifique. On s'est régalé.
Oui, j'ai vu les audiences monter à chaque fois.
Exactement, Eric. Voilà, écoute. Merci beaucoup. Et puis, merci surtout à tous ceux qui sont passés là, à ta place, Arnaud, Alex Bigger Staff, Simon Dutin, merci à Erwan Abotrette, à Maxime Potti, merci à toutes les prods, à tous les réals. On pense à Jimmy Brandt.
Tiens, juste avant, il y a Eddie qui nous appelle pour la moto.
Non,
qu'est-ce que serait une fin de Stephen Brandt sans
Tu peux pas me flinguer, mes remerciements avec Benzeki qui a abandonné.
Je vais me gêner, tu voulais même pas venir à la moto. Victoire du japonais Ayogura.
C'est lui qui gagne en plus.
22 ans. Ouais, 22 ans qu'un Japonais n'avait pas gagné en catégorie reine. Il s'impose devant Raúl Fernández et Jorge Martín, qui est le nouveau leader du championnat du monde. Et enfin, rapidement, la 8e place pour Fabio Quartararo, ici à Assen, messieurs.
Merci Eddy. Donc je continue mes remerciements. Merci à tous les journalistes qui sont passés dans l'émission. On s'est régalé cette saison. On se retrouvera la saison prochaine. Profitez bien de vos vacances. Soyez sages et on laisse la main à Johan Bredoff qui va nous faire vivre la suite du sport sur RMC. On se retrouve fin août. Merci beaucoup. Merci à tous. Ciao, ciao.
Ciao.
RMC, 13h15, Stephen Brunch.